BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, il est bientôt 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good evening business jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, il y a déjà ce départ qu'on n'attendait pas. Thierry Breton qui claque déjà la porte de la future Commission européenne. C'est Stéphane Séjourné, futur ex-chef de la diplomatie française, qui sera le candidat à un poste de commissaire européen. On va bien sûr largement reparler avec Thomas Asportas notamment. Dans un instant, heureusement, il y a des choses qui marchent en Europe, Edwige.
Oui, qui marchent, enfin oui et non. Du reste, il sera là, il faut voir. Quand même, on s'est pris une grande claque au niveau européen. Mon invité, en tous les cas, c'est exceptionnel, c'est Joseph Aschbacher. C'est le patron de l'Agence spatiale européenne, l'équivalent de la NASA. Du reste, je lui demanderais, tiens, ce qu'a réussi Elon Musk, là, vous savez, la mission, là, ils sont sortis dehors. Comme quoi, le privé, c'est plus efficace que le public. Est-ce que c'est une grande claque? Est-ce qu'il a félicité Elon Musk? Question, je lui poserai. Et puis, bien sûr, on parlera de l'agenda spatial européen. Oui. Il y a la constellation Iris. C'est des enjeux colossaux avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les industriels. Européens et Français sont sur le coup, mais quand est-ce que ça va enfin démarrer?
Eh bien, on débriefera tout ça à 18h30, bien sûr. Dans l'actualité également ce soir, cette grande mobilisation à Bruxelles contre les suppressions de postes dans le secteur auto. Et puis, le budget 2025, Éric Coquerel qui pourrait taper à la porte de Matignon demain matin s'il n'a pas les documents qu'il réclame.
Devrait les avoir.
Devrait les avoir, on verra en tout ça. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc les choses sont allées très vite après la décision de Thierry Breton de ne plus être commissaire européen. On va y revenir dans un instant. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Donc c'est Stéphane Séjourné qui était désigné pour être le candidat de la France. Pourquoi lui, Thomas, finalement?
Pour trois raisons. Et la première, c'est le portefeuille. L'Élysée explique que la France veut un portefeuille clé dans la commission d'Ursula von der Leyen, un portefeuille centré sur la souveraineté technologique et industrielle et sur la compétitivité européenne. Et Emmanuel Macron veut que ce portefeuille soit le plus large possible, maximiser le plus possible la taille de ce portefeuille pour peser au maximum sur l'agenda d'Ursula von der Leyen. La deuxième raison, c'est d'avoir une personnalité politique, je cite toujours l'Élysée, de confiance pour porter ce portefeuille. C'est le mot qu'ils emploient. Quelqu'un qui a la confiance du président de la République et de la présidente de la Commission européenne. Et l'Élysée explique que le nom de Stéphane Séjourné s'est imposé à l'issue des discussions parce qu'il est rompu à la politique européenne. Vous le disiez, ministre partant des Affaires étrangères, mais aussi ancien président du groupe centriste Renew dans le précédent Parlement européen. Et enfin, la troisième explication donnée par l'Élysée pour ce choix, ce sont les équilibres politiques au sein du Parlement et de la future Commission. Ursula von der Leyen, on l'a vu, a été reconduite grâce à une coalition des conservateurs, des socialistes et des centristes Renew. Mais Renew a perdu beaucoup de députés lors des dernières élections. Ils étaient troisième groupe politique au Parlement en 2019. Ils ne sont plus que cinquième. Et donc Stéphane Séjourné va devoir aussi défendre le poids des centristes au sein de la future commission. Ursula von der Leyen, ça a été dit aujourd'hui, espère toujours présenter demain. Oui. Et dans laquelle Stéphane Séjourné devrait avoir le titre de vice-président exécutif.
Stéphane Séjourné, donc, qui sera donc le candidat qui devra donc décrocher demain officiellement un poste de commissaire européen.
Merci. Il doit encore être validé par les députés.
Et ça doit encore être validé après, donc le processus ne fait que commencer. Merci beaucoup Thomas. Thierry Breton quitte donc ses fonctions et en fait clairement porter la responsabilité à Ursula von der Leyen. Bonsoir Alix Le Bourdon, vous êtes à Bruxelles. Qu'y a-t-il dans le message qu'a posté Thierry Breton ce matin, Alix?
Eh bien, écoutez, dans une lettre de démission fracassante publiée par Thierry Breton ce matin et qui a créé l'effet d'un choc ici à Bruxelles, l'ex-commissaire français règle littéralement ses comptes avec la présidente de la Commission européenne. Il parle d'une gouvernance douteuse en expliquant qu'Ursula von der Leyen a demandé à Emmanuel Macron de retirer son nom pour le poste de commissaire français. Alors, on connaît bien sûr les tensions qui existent entre la chef de l'exécutif européen et l'ex-commissaire français. Thierry Breton était même allé jusqu'à incriminer directement Ursula von der Leyen après la nomination d'un eurodéputé de son parti, le Parti Populaire Européen, à un poste clé, alors même qu'à ce moment-là, Ursula von der Leyen avait justement besoin du soutien de son parti pour envisager un second mandat à la tête de la Commission européenne. Dans ce contexte, la démission du tonitruant commissaire français fait évidemment les affaires d'Ursula von der Leyen, mais certains, ici à Bruxelles, accusent déjà Emmanuel Macron d'affaiblir l'influence française à Bruxelles en cédant aux exigences de la présidente allemande de la Commission européenne.
Alors voilà, ça aussi fait partie des questions qu'on posera à nos experts. Emmanuel Macron porte-t-il un coup dur à l'influence de la France? On en parle bien sûr de tout cela avec nos experts. Jusqu'à 20h, 18h03. Et alors, pendant que l'Europe essaie tant bien que mal de se doter d'une commission, il y avait donc une grosse manifestation aujourd'hui à Bruxelles. Démonstration de force du secteur européen de l'automobile pour protester contre les fermetures d'usines annoncées ou à venir, sur fond, bien sûr, de transition énergétique. Justine Vassogne.
5500 salariés selon la police, plus de 10 000 selon les organisateurs. À Bruxelles, les manifestants étaient d'abord réunis pour soutenir les 3 000 employés de l'usine locale d'Audi à Forest qui pourrait fermer ses portes dès l'année prochaine. Salvatore Tabone y travaille depuis 27 ans.
Après avoir fait beaucoup d'efforts chez Audi, ça c'est le remerciement qu'ils nous font. Ça va faire beaucoup d'emplois supprimés en Belgique à cause de ça.
Aux côtés des salariés d'Audi, des délégations venues de France, de Pologne, des Pays-Bas et d'Allemagne, car les menaces de licenciement sont légion en Europe, dans l'automobile, Volkswagen, la maison mère d'Audi, envisage ainsi de fermer d'autres usines, dont 2 ou 3 sites en Allemagne. Au total, 15 000 emplois pourraient être supprimés, selon les analystes de Jefferies. Le secteur automobile peine à réussir sa conversion à l'électrique entre des ventes qui patinent et une concurrence chinoise de plus en plus vive. Le lobby automobile européen, la CEA, estime même que si les nouvelles règles européennes sur les émissions de CO2 sont maintenues, il faudrait réduire drastiquement la production de voitures thermiques dès l'année prochaine et potentiellement fermer 8 usines.
Voilà, secteur de l'automobile qui emploie aujourd'hui 14 millions de personnes dans l'Union européenne. En France, je vous le disais, la pression qui monte sur Michel Barnier. Ce matin, le président LFI de la Commission des Finances de l'Assemblée, Éric Coquerel, a menacé de se rendre demain mardi à Matignon s'il ne reçoit pas d'ici ce soir les documents budgétaires relatifs à la préparation du budget de l'an prochain. La Constitution lui redonne le droit. Matignon a fait savoir qu'elle allait lui adresser un courrier dans la journée. Et puis, le Club Med cherche un nouvel investisseur. Et apparemment, il l'aurait trouvé du côté de Singapour. D'après nos informations, le fonds souverain local serait prêt à racheter 30% du groupe. Mathieu Pechberti.
Temasek est prêt à racheter 30% du groupe de tourisme par l'intermédiaire de son fonds spécialisé dans l'immobilier. Au Club Med, tout le monde pense que le fonds souverain de Singapour est le candidat désigné du propriétaire Fosun, qui cherche à réduire sa participation. L'ouverture du capital est gérée depuis Hong Kong par Bank of America, loin du siège parisien du Club Med. Une manière d'isoler un peu plus son président, Henri Giscard d'Estaing, soutient lui l'offre du fonds britannique CVC et de BPI France qu'il a réussi à mobiliser. Derrière cette opération stratégique se joue le bras de fer entre l'emblématique patron du Club Med et Fosun. Selon nos informations, le propriétaire chinois veut changer la gouvernance à la fin du mois. Son projet vise à transférer les décisions opérationnelles au conseil d'administration qu'il contrôle, une manière de retirer les pouvoirs d'Henri Giscard d'Estaing, après avoir déjà évincé son bras droit cet été, et de le pousser un peu plus vers la sortie.
Voilà, le Club Med peut-être qui cherche du côté de Singapour son futur investisseur. Si le sujet vous intéresse, vous allez retrouver toutes les infos de Mathieu Pechberti sur notre site bfmbusiness.com. 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce lundi à la Bourse de Paris?
Oh, pas terrible, hein. Du point de vue du score.
Tous les soirs, vous nous dites ça.
Non.
Je suis navré.
Mais on sortait d'une semaine où on a fait plus 1,5% quand même. Donc là, c'était normal qu'on cale un petit peu, à moins 0,21%. 7449, puis surtout les volumes. Les volumes d'échange étaient vraiment pas fameux, hein. 2,2 milliards. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché. À noter une très nette sous-performance, alors pour le coup, de la tech, des technos, à moins 1,24 pour l'Euronext Tech Leaders. Puis tiens, regardez sur le CAC 40, un ST Micro signe la plus forte baisse à moins 3,36, 24,89, Dassault Systèmes moins 83 à 35,50, Capgemini moins 1,55 à 190,15, véritablement un tir groupé hein, de la tech européenne qui n'était pas très bien orientée, puis à signaler à Worldline qui s'effondre totalement, moins 15,2% encore, 6,12€, mais Soitec hein, signe quand même une baisse assez marquée, hein, moins 7,7% à 93,25€. Sinon, ce qui a bien résisté, bah, Rexel tiens, sur le SBF 120 qui a gagné 9% à 25,05€. Offre de rachat totalement non sollicitée par un Américain, refusée par Rexel pour le moment, mais ça a le mérite de nous remettre un petit peu le projecteur autour de Rexel, qui a une valeur vraiment qui cote bien du côté de la Bourse de Paris. Il y a Virbac aussi, tient plus 7,99% à 392€. Puis alors le reste des valeurs en hausse sur le CAC 40, de l'immobilier avec Unibail, Rodamco, Westfield, plus 1,28 à 77,50. Du BTP avec Bouygues, plus 1,23 à 32,04 et des services aux collectivités. Veolia plus 1,14 à 30,12. Donc vraiment des grosses valeurs traditionnelles. Le CAC moins 0,21, 7449 points. L'euro qui a bien forci face au dollar à 1,1129. Et puis surtout l'once d'or fin qui a encore signé record sur record. Là, on était à 2607 dollars l'once.
Merci beaucoup, Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance, bien sûr. Le Dow Jones qui a fait un nouveau record en séance apparemment aujourd'hui. Plus 0,24%, 41492 points. L'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,9%, 17528. 18h09, c'est donc le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Joseph Aschbacher, qui est l'invité d'Eddie Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Joseph Aschbacher. Il est directeur général de l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Bonjour Joseph Aschbacher, merci d'être là. C'est un peu un événement de vous voir. Il faut dire qu'il y avait une très grande conférence qui se tient à Paris, la World Satellite Business Week, avec tous les grands industriels qui étaient là pour parler d'espace. Après un peu la claque que les Européens se sont prises avec Elon Musk, qui a réussi à avoir cette mission avec des astronautes qui sont sortis dehors. On va revenir sur ce point-là. Une question, est-ce que vous avez parlé des conséquences de la démission de Thierry Breton? Parce que ça va beaucoup changer pour la défense, pour le spatial et notamment pour les entreprises françaises.
Yeah. So first of all, very happy to
Alors
be
tout d'abord,
here
je suis ravi d'être BFM, ici à BFM. C'est vraiment une formidable occasion pour moi de parler. Très bonne réunion aujourd'hui à la World Space Business Week. Nous avons parlé de l'état de l'économie mondiale. Nous avons essayé de voir comment l'espace en Europe peut rivaliser avec l'espace aux États-Unis. Vous avez parlé d'Elon Musk, de SpaceX, son entreprise. Nous avons échangé sur la démission de Thierry Breton, évidemment dans les couloirs, mais pas dans la réunion officielle. Mais dans les couloirs, évidemment, tout le monde était surpris. En effet, c'était inattendu. Et cela signifiera qu'il va y avoir des changements. Nous allons voir ce que cela signifie concrètement en termes de nouvelles commissions à mettre en place. Mais oui, Thierry Breton était une force assez puissante.
C'est quelqu'un qui connaissait bien l'industrie. C'est quand même pas forcément une bonne nouvelle, sans faire de mauvais procès.
Vous avez tout à fait raison. Il connaissait très bien l'industrie, il connaissait très bien le contexte. Bien évidemment, il dirigeait les activités spatiales en Bruxelles, en plus d'autres activités. Et j'étais son interface avec l'ESA, son interlocuteur. Donc, vraiment, il a beaucoup travaillé et nous allons voir ce qui va se passer. Nous lui souhaitons bonne chance, nous le remercions pour son travail et nous avons hâte de voir quel sera le prochain chapitre.
Comment est-ce que vous avez réagi, Joseph Aschbacher, quand vous avez vu que la mission Polaris Dawn a réussi? C'est-à-dire qu'ils ont pu sortir dehors, ils ont pu aller voir l'espace. C'est la première fois que c'est une mission privée qui fait ça, donc Elon Musk, enfin SpaceX. Est-ce que vous lui avez envoyé vos félicitations? Comme l'a fait votre homologue américain, le patron de la NASA. Vous l'avez félicité, Elon Musk?
Bon, I did not congratulate him directly to this particular event.
Directement. Mais en général, c'est ce que je fais. Lorsqu'ils font de grands exploits comme le lancement du Starship. Mais voilà, c'était un bel exploit. Polaris Dawn, évidemment, c'est une mission qui a ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux aspects. Premièrement, c'est une entreprise privée qui envoie des astronautes dans l'espace. C'est tout à fait spectaculaire de voir que tout à coup, la porte s'ouvre vers l'espace pour les gens. Et c'était incroyable de voir cette sortie spatiale. Vraiment une belle expérience que nous avons suivie de près. Nous allons penser à ce que cela signifie.
Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, juste, il y aura pour faire des entraînements, il y aura des scaphandres signés Pierre Cardin. En tous les cas, c'est ce que vous avez demandé. Et puis, quand est-ce qu'il y aura bientôt des astronautes européens dans l'espace?
Yes, we just saw Pierre Cardin's spacesuit.
Nous venons de voir le scaphandre, la combinaison Pierre Cardin. Alors, ce ne sont pas réellement des combinaisons spatiales pour l'espace, c'est simplement pour l'entraînement. Nous allons les utiliser dans notre nouveau centre lunaire que l'on va ouvrir dans quelques semaines à Cologne, en Allemagne. Et ils sont très beaux, ils sont vraiment à la mode, tendance. Nous sommes reconnaissants envers Pierre Cardin et pour son équipe qui l'ont conçu. Qu'est-ce que cela signifie pour les astronautes européens? Nous avons un très grand programme d'astronautes européens. Nous avons des astronautes actifs de la promotion 2009, il y en a 5, et nous avons 17 nouveaux astronautes que nous avons sélectionnés, que j'ai sélectionnés en 2022.
Oui, ok, mais quand ils vont être quand dehors? Quand est-ce qu'ils vont aller dans l'espace? Quand est-ce qu'ils vont aller sur la Lune? Quand est-ce qu'ils vont aller sur Mars? Quand est-ce qu'ils vont sortir des bureaux de l'Agence spatiale européenne?
They're going to space all the time. I mean,
ils vont tout le temps dans l'espace. Hein, il y a un astronaute qui vient de rentrer, Matthias Vanter, qui était pour une mission Axiom. Il y a également Morgan Sun qui rentre d'une mission de 6 mois. La prochaine mission. Alors, les prochains astronautes sont en train d'être formés. Sophie Adenau, française, avec Raphaël Liégeois, qui sont en train d'être formés à Houston pour le prochain séjour de 6 mois dans la station spatiale européenne. Ensuite, ils viendront au centre spatial européen pour, où nous les préparons pour des missions à long terme. Nous avons également des vols commerciaux, un projet polonais avec Lisa qui vole avec Axiom au début de l'année prochaine, une mission à court terme, quelques semaines seulement. La durée n'a pas encore été définie précisément, mais ce sera les prochains astronautes de l'ESA qui iront dans l'espace, en plus de ceux qui iront dans l'ISS en 2026. Et nous avons hâte de voir nos astronautes aller sur la Lune. Nous avons déjà prévu avec la NASA d'avoir 3 astronautes.
Est-ce qu'un jour on verra de notre vivant un vol habité européen sur la Lune?
Oui,
je nous souhaite une longue vie. Et évidemment, dans les années 2030, nous verrons des astronautes européens sur la surface de la Lune. Nous parlons avec la NASA déjà aujourd'hui pour savoir quand cela se fera. Parce que il faut bien savoir que ce n'est pas simplement comme acheter un billet d'avion. Il y a réellement une coopération que nous développons avec la NASA, ce qui signifie que nous développons du matériel que nous fournissons à la NASA dans le cadre du programme Artemis, le programme international. Et en échange, eh bien, il y a des vols soit sur le Gateway, la passerelle, ou sur la Lune. Et déjà, 3
Joseph Aschenbacher, ce n'est pas la première fois que je vous interview. Je vous avais interviewé à Davos, on s'en souvient. Là, on a l'impression, en vous écoutant, que tout va bien. Vous voyez bien que, j'ose pas dire tout va mal, mais enfin, en tous les cas, on a pris beaucoup de retard au niveau européen. Est-ce que c'est une question de moyens? Il n'y a pas Mario Draghi dit qu'il faut 800 milliards pour éviter que l'Europe s'enfonce dans son déclin. Vous, vous dites qu'il faut combien sur la table pour que les Européens aient un rôle dans le spatial?
I mean, you have to really look at the financial figures.
Il faut regarder les chiffres financiers. BFM, évidemment, s'intéresse beaucoup au business et aux chiffres. Les investissements aux États-Unis dans le secteur public, donc la NASA et le Space Force et le secteur public dans l'espace, est 6 fois plus élevé qu'en Europe. Si je prends les chiffres, les investissements publics totaux l'an dernier étaient 108 milliards d'euros, dont 64 milliards aux États-Unis et 11,4 milliards en Europe. Donc on voit que c'est 6 fois plus aux États-Unis. S'ils ont 6 fois plus d'argent, ils peuvent faire 6 fois plus de choses, normalement. Mais je dois dire que l'industrie européenne est très compétitive. Et avec moins d'argent, avec moins de ressources, nous arrivons à faire beaucoup d'exploits. Nous sommes très bons dans certains domaines, mais vous avez raison, tout n'est pas formidable, tout n'est pas simple. Il y a certains secteurs où l'Europe n'est pas au même niveau et a pris du retard. Et c'est un gros risque et nous devons nous pencher
on
dessus.
On a pris du retard aussi, pardon, même si Ariane 6, ça a été une réussite, parce que ça y est, le lanceur, ça a marché. Mais en même temps, pendant ce temps-là, Elon Musk faisait des lanceurs réutilisables. Il y a une inventivité chez Elon Musk, une agilité technologique que peut-être des mastodontes comme l'ESA, l'Agence spatiale européenne, n'ont pas forcément, ou des géants de l'industrie.
I mean, this is almost provocative.
Vous savez, c'est très provocant. On change beaucoup en Europe. Bien évidemment, nous apprenons. Lorsque je suis devenu DG de l'ESA il y a 3 ans, eh bien, je me suis penché de près sur ce que faisait la NASA et ce que faisaient les États-Unis. Ils ont créé SpaceX, beaucoup d'autres entreprises qui sont très puissantes. Personnellement, j'aimerais faire quelque chose de très similaire en Europe. J'aimerais que l'Europe développe une industrie spatiale robuste, une industrie spatiale commerciale. Nous avons déjà lancé plusieurs choses. Nous allons également construire une capsule de cargo réutilisable, un véhicule qui permet d'envoyer des cargos, des marchandises à la Station spatiale européenne et revenir. C'est quelque chose que nous faisons de manière très différente. Mais l'ESA sera un client. Nous allons acheter des services et nous n'allons pas tout acheter, nous n'allons pas acheter des engins spatiaux ou des satellites. C'est exactement ce que les États-Unis font, ce que SpaceX apporte. Être un client, c'est quelque chose que nous devons faire bien plus en
Europe. Où est-ce qu'à votre avis, ça bloque ? Parce qu'on a des industries, alors c'est pour ne pas faire un cocorico, mais enfin, si vous prenez Airbus Aerospace, vous prenez Thales, vous prenez Ariane Espace, on est assez bon dans l'industrie spatiale et l'industrie de défense. Pourquoi on n'arrive pas à délivrer?
Ok, we are good. Our industry is excellent.
Notre industrie est excellente même, mais elle est petite. Nous avons besoin de 3 choses en Europe pour réellement aller de l'avant et passer à l'échelle supérieure. Premièrement, bien évidemment, nous avons besoin d'avoir accès à des financements et nous assurer que nous avons des programmes attractifs qui sont bien financés dans les fusées, les engins spatiaux, les infrastructures spatiales en général. Mais le financement seul ne suffit pas. Deuxièmement, nous avons besoin d'éviter la fragmentation. C'est une des faiblesses de l'Europe. Nous avons un paysage très fragmenté. Il y a des pays nationaux, des institutions européennes, l'Agence spatiale européenne, l'Union européenne, USPA, et tout cela doit être organisé de manière cohérente. C'est un des grands défis à relever très rapidement. Et troisièmement, nous devons être plus agiles, plus rapides, et nous devons nous assurer que nous réagissons bien plus rapidement à la demande de l'industrie. Cela signifie que si il y a des contrats, il faut aller plus vite.
Alors justement, vous allez nous dire quand est-ce que ça va ? Vous allez donner le top départ sur la constellation Iris. On sait qu'il y a c'est un enjeu vital pour l'industrie européenne et l'industrie française, puisqu'il y a 2 concurrents qui sont sur les rangs. Quand est-ce que le top départ va être donné ? Quel est le calendrier ?
C'est dirigé par l'Union européenne, donc ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est Thierry Breton qui, jusqu'à hier, dirigeait cela, mais c'est la Commission européenne qui a le lead. Les négociations sont en cours aujourd'hui. Mais je peux déjà vous dire une chose, c'est que pour certains projets européens, l'ESA et l'Union européenne travaillent main dans la main. Nous travaillons très bien ensemble. Regardons Copernic, Galileo. De bons exemples. Nous avons les meilleurs programmes au monde en termes de navigation d'observation, les signaux les plus précis pour la navigation, les données les plus globales, les meilleurs systèmes de livraison de données. On voit bien que l'Europe travaille bien. La Commission européenne, l'Union européenne avec sa force politique, l'ESA avec sa force technologique et technique qui conçoit les meilleures infrastructures spatiales. Je pense que c'est un très bon modèle à suivre et il faut avancer dans ce domaine.
Ce qui était intéressant, enfin, l'enjeu, quand on regarde cette mission Polaris Down, donc de Elon Musk, c'est qu'en fait, quelque part, c'est une banalisation de ce qu'on appelle l'orbite basse. Donc, ça veut dire que, alors que le monde est en train de développer complètement de nouvelles technologies, qu'il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait, on va avoir une nouvelle forme de satellites qui vont être à d'autres niveaux autour de la Terre. J'essaie de faire de la pédagogie.
Vous avez tout à fait raison. Une nouvelle génération de satellites aura l'intelligence artificielle embarquée. C'est une très bonne chose. Par exemple, si vous pouvez suivre notre surface, la surface de la Terre, identifier les incendies, l'intelligence artificielle fait les calculs et peut envoyer un signal immédiatement à une brigade de pompiers lorsqu'il y a un incendie pour que les pompiers agissent immédiatement. Ce système d'intervention rapide implique différents satellites en orbite avec des capacités d'observation, des capacités de communication et de navigation combinées avec de l'intelligence artificielle en orbite pour s'occuper des calculs, pas simplement sur Terre, sur les ordinateurs, mais également dans l'espace. Je pense que c'est l'avenir. C'est un avenir qui nous permettra d'avoir des systèmes résilients, des systèmes rapides, qui permettent de réagir aux crises très rapidement et d'aider les personnes en cas de besoin.
Ça veut dire que quand même,
le spatial, l'industrie spatiale et de défense est en train de subir une vraie mutation. On rentre dans une autre phase que celle qu'on a connue aujourd'hui.
Absolutely. We are doing a completely new chapter.
C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Nous prenons des décisions avec les États membres de l'ESA. C'était en novembre 2022. Nous avons pris des décisions. Nous avons décidé, par exemple, de mettre en œuvre un changement de paradigme, c'est-à-dire changer la manière dont l'Europe travaillera à l'avenir. Évidemment, mon travail en tant que directeur général de l'ESA consiste à m'assurer que ces décisions politiques se traduisent en actions. C'est une transformation très profonde au sein de nos institutions. À l'ESA, nous avons environ 6 000 personnes qui travaillent, des ingénieurs, des scientifiques, qui travaillent sur les programmes spatiaux, et nous devons travailler de manière très différente. Mais il en va de même pour le reste de l'Europe, avec l'écosystème spatial européen. Et oui, il est nécessaire de changer, de se transformer, d'être plus orienté sur la commercialisation, parce que la commercialisation aujourd'hui dirige beaucoup plus l'aérospatial que par le passé.
Quand on regarde, en fait, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est un peu comme la NASA. Mais la NASA, elle finance, elle a financé Elon Musk, en fait, on le sait un peu, l'organisation qui a vraiment lancé SpaceX et Elon Musk. Est-ce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez la même chose avec des industriels européens ?
We're doing exactly the same thing.
Nous faisons exactement la même chose à une plus petite échelle, parce qu'aux États-Unis, il y a plus de financement public disponible, mais nous faisons exactement la même chose. Alors, oui, nous achetons des services, comme la NASA achète des lanceurs auprès d'Elon Musk et de SpaceX, et nous soutenons le développement de Falcon 9. La NASA encourage également les ingénieurs pour développer Falcon 9. Et nous faisons la même chose. Nous travaillons avec les acteurs industriels pour les aider à développer un service industriel et commercial. Nous avons lancé récemment un appel pour un cargo réutilisable. Une entreprise française a participé, Thales notamment. Nous souhaitons que les clients puissent acheter un transport de 4000 kilos de marchandises, s'amarrer à la station spatiale internationale, décharger le cargo et redescendre 2000 kilos. C'est quelque chose de très difficile en technologie, car il faut une technologie de réentrée que nous n'avons pas encore en Europe. Mais à l'ESA, nous achetons le service qui permet d'acheminer des cargos à l'ISS et de leur descendre. C'est une nouvelle manière de travailler, mais évidemment, il faut changer notre manière de travailler.
Ouais. Ça c'est vraiment, c'est la dernière question. Enfin, j'en ai encore une toute petite. C'est votre marque de fabrique, Joseph Aschenbacher, depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'ESA. Vous essayez de secouer un peu le cocotier et de dire qu'il faut travailler autrement. Il vous faudra combien de temps pour réaliser ça?
It will take time to
be realistic. Cela prendra du temps pour être parfaitement réaliste.
Est-ce que vous avez du temps?
Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je suis très impatient, j'insiste beaucoup, je pousse toutes les A. Et vous avez tout à fait raison, il faut accélérer. Nous avons créé des accélérateurs qui nous permettent d'accélérer le changement pour travailler différemment avec l'industrie, avec les A. Et évidemment, ça va fonctionner.
Une petite question, il y a combien de débris dans l'espace aujourd'hui? Je sais que c'est un thème qui vous passionne.
There are about 1.1 million that are larger than 1 millimeter.
1 million 100 environ qui sont plus gros que 1 millimètre. 40 000 qui sont plus gros que 10 centimètres. Et il y a 40 000 plus gros que 10 centimètres. Donc beaucoup de débris dans l'espace.
Ouais, mais comme ça, peut-être les cargos, ça pourra servir à ramasser les débris. Merci beaucoup, en tous les cas, Joseph Aschenbacher, d'être venu. Ici, directeur général de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, était notre invité.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, les experts, première partie jusqu'à 19h pour refaire toute l'actu économique du jour. Edwige Chevrillon, revenu. Rebonsoir Edwige, bonsoir.
Rebonsoir.
Mathieu Pechberti avec nous également. Bonsoir Mathieu. Pour parler, bonsoir, alors Mathieu. On parlera de ce que nous a dit Joseph Aschenbacher, on parlera de l'espace, de défense, à travers ce qui est l'actu du jour. C'est ce départ que personne n'avait vu venir finalement de Thierry Breton ce matin, tweet. Alors, Il a illustré ça à sa façon d'ailleurs, Thierry Breton, avec un tweet qu'on va voir si vous nous regardez à la télévision, qui était assez parlant. Il a mis en gros, voilà, le tableau de la prochaine commission. Et puis ce petit mot lapidaire, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à l'ensemble des équipes de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'on dit de ce départ, au-delà du fait que personne ne l'avait vu venir? Voilà, il paye ses frictions avec Ursula von der Leyen. Là,
oui, mais ça, c'est pas... il faut quand même voir que lui, il voulait son job hein, aussi. Donc, il voulait son job, il a fait campagne, il s'est opposé beaucoup à elle. Il a fait ce qu'on appelle le Pipergate, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire bloquer la nomination d'un des bras droits de Ursula von der Leyen, qui était importante pour elle au niveau allemand, qui était un monsieur Piper, qui donc devait s'occuper soi-disant des PME, qui était très très bien payé. Bref, oui, ça fait longtemps qu'il...
Pour obtenir, disait-on, le soutien du PPE dans le cadre de sa réélection.
Voilà. Donc ça fait longtemps quand même qu'il se fight, si vous me permettez cette expression. Surtout comme lui voulait devenir président de la Commission européenne. Bref, ça le faisait pas, comme on dit.
C'est une autorité publique qui voulait être président de la Commission.
Oui. Et la seule chose, c'est que là, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit si brutal. Là, ça quand même, on a tous été quand même très très étonnés. En plus, avec la nomination qui était dans, alors qui était dans les, visiblement dans les tuyaux à l'Élysée de Stéphane Séjourné. Oui. Ce qu'on peut se poser comme question quand même, c'est est-ce que effectivement la position de la France, vu notre situation politique, est suffisamment affaiblie pour qu'il puisse se permettre ça, ce psychodrame auquel nous assistons.
Alors, ça fait partie des questions qu'on va poser. C'est ce que nous disait tout à l'heure notre correspondante à Bruxelles. À Bruxelles, déjà, oui, certaines voix s'élèvent pour dire on a encore amoindri la parole de la France, la voix de la France à l'échelle européenne. Bon, c'était cousu de fil blanc, cette affaire. Là, il paye ses dissensions avec Ursula von der Leyen. Il y a effectivement cette histoire d'émissaire européen. Il y a eu des mails aussi, des SMS et des tweets assez vindicatifs sur sa politique, sur son éthique, sur ses choix, sur la faible marge de manœuvre dont elle a disposé quand elle a été réélue par le PPE finalement en Europe.
Moi, je ne savais pas que c'était cousu de fil blanc. Sur la forme, c'est quand même extrêmement surprenant.
Je ne l'ai jamais vu.
Thierry Breton, qui on dirait du Elon Musk ou du Xavier Niel, qui sont deux personnes qu'il n'apprécie pas pour autant et qui le lui rendent bien d'ailleurs. Enfin, faire des sorties comme ça. Il a fait un deuxième tweet dans la matinée en tweetant la photo d'un tableau.
D'un tableau blanc. Mon portrait pour la future Commission européenne.
Moi, je me fais penser au tweet un peu à l'emporte-pièce comme ça de blanc. Musk ou de Xavier Niel, bon, qui ont, on va dire, la stature un peu de rebelle pour faire ça.
Thierry Breton,
lui, était comme numéro 2. Alors, donc ça, c'est sur la forme, c'est quand même plus que surprenant. Moi, j'étais surtout surpris, juste après les élections européennes, de voir qu'il recommençait, qu'il repartait pour un mandat, alors que justement on savait très bien qu'il voulait la place de von der Leyen, et qu'on voyait pas bien d'ailleurs comment il allait partager ce pouvoir, parce que lui n'aime pas être numéro 2. Thierry Breton, partout où il est passé, que ce soit dans les entreprises ou à la Commission, quand il a un poste, il veut celui d'après, et il n'a jamais été numéro 2, c'est la seule fois. Donc voilà, pour la forme. Oui, pour le fond, il s'est quand même beaucoup opposé à Ursula von der Leyen à de multiples reprises sur des sujets très sérieux, à la fois industriel, énergétique, pendant la crise énergétique.
Qui t'empiétait un peu sur les prérogatives de ses petits copains.
Oui, et puis il jouait beaucoup la carte franco-française, et c'est ce qui lui était aussi souvent reproché. Enfin,
par rapport aux Allemands, c'était... On est dans le jardin d'enfants. Hein. Non, mais à la Commission européenne.
Chacun joue cette carte-là. De toute façon, derrière leur duel, il y avait le duel franco-allemand. Mais enfin, on l'a vu sur des sujets comme le véhicule électrique, l'énergie, le nucléaire, la réforme du marché. Voilà. Donc, sur la forme, extrêmement étonné, enfin, qui ne l'a pas été. Sur le fond, en fait, l'erreur, je pense, c'était surtout d'essayer de le faire repartir dès le mois de juin. Et ça, c'était quand même une nouvelle d'Emmanuel Macron.
On entend dire, on lit dans la presse qu'il y a eu un coup de fil la semaine dernière entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Cette dernière a indiqué au président de la République que si c'était Breton, ça serait vraiment un périmètre très restreint, donc il n'y avait pas le choix finalement.
Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux un périmètre élargi? Auquel cas, c'est pas avec Thierry Breton. Et si jamais tu veux un périmètre, tu veux Thierry Breton, ça sera avec un périmètre resserré. Or, comme on vient d'en parler, il y avait les enjeux de défense, du spatial, du numérique. Il a quand même fait des salles, des mains. Il a quand même fait beaucoup de choses, hein, quand même, Thierry Breton. Oui. On l'a souvent critiqué sur ce plateau pour son rôle quand il était patron d'Atos. Mais là, il faut reconnaître qu'il a quand même fait avancer beaucoup de. Il a fait bouger les lignes.
Oui.
très
ah, je sais pas s'il a fait
ah,
beaucoup
bouger. Ah, vous êtes partagé, là. Mais non, mais Thierry, il se présentait comme l'homme qui faisait...
Non, mais sur l'énergie, on a quand même gagné par rapport à la position allemande sur le nucléaire.
Oui, sur la place du nucléaire, on a... enfin, la France, en tout cas, a poussé ses idées et effectivement avancé. Pour moi, il n'a pas le profil d'un commissaire européen. On est quand même dans des institutions européennes où il faut des profils plutôt ronds, lisses, rompus à la... en tout cas, au compromis permanent et avec Ursula von der Leyen et évidemment le bloc, on va dire allemand, néerlandais, autrichien derrière, il faut
donc
savoir...
Il a été trop patron bulldozer, c'est ça que vous voulez dire,
il était patron...
La Commission européenne est en déclin, regardez le rapport de Mario Draghi, donc il faut faire bouger les lignes. Si on ne fait pas bouger les lignes, ben ça y est, c'est enterré, quoi.
Bon. Mais d'ailleurs, lui, il a essayé de faire bouger les lignes, il poussait beaucoup là-dessus, et von der Leyen a été peut-être plus habile que lui en termes politiques, hein.
On n'a pas le même poids. Alors, on revient.
On n'a pas le même poids. Alors, on est en ligne justement pour vous départager peut-être sur cette question avec Bruno Alomar qui est avec nous, qui vient nous voir régulièrement ici sur ce plateau. Bonsoir Bruno, merci d'être avec nous, directeur général de New Horizon Partners, ancien haut fonctionnaire à Bruxelles. Déjà, pour rebondir sur ce que nous disait Edwige, est-ce que vous considérez, parce qu'apparemment à Bruxelles c'est le cas, beaucoup de voix s'élèvent ce soir pour dire on a encore amoindri la voix de la France au niveau européen, au plan international, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, vous, ce soir, Bruno?
Bonsoir. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, l'affaiblissement progressif de la France, c'est un travail continué depuis 30 ou 35 ans. Et ça s'est accentué sous Emmanuel Macron. Ce que je veux dire, c'est qu'à Bruxelles, on sait lire les notes du Trésor. Et quand une note du Trésor nous dit que la trajectoire budgétaire de la France, elle est plus sous contrôle, ou quasiment, on comprend très bien. Et ça n'arrange pas les affaires de la France. Moi, je voudrais faire quelques remarques là-dessus, très brièvement. La première, c'est que c'est à nouveau une bérésina pour Emmanuel Macron. Puisqu'en 2019, il voulait nommer Madame Goulard. Mmh. Elle a été retoquée par le Parlement.
Oui.
Là, il a choisi tout seul, sans consulter le nouveau gouvernement, et pour cause, il n'y en avait pas, alors que le traité dit que c'est le Conseil, c'est-à-dire les ministres qui proposent le commissaire. Là, il a voulu bypasser tout le monde, et ce commissaire, malheureusement, pour la France, il s'en va. Donc c'est quand même, pour Emmanuel Macron, une cuisante défaite. Ensuite, je pense, et ça n'a pas été dit par vos interlocuteurs que je salue, c'est aussi un gros problème quand même pour la Commission. Parce que la Commission n'arrive pas à se constituer aujourd'hui, elle a du retard. Et puis, plus généralement, la Commission, elle est bâtie sur ce qu'on appelle le principe de collégialité.
Oui.
La collégialité, c'est quelque chose qui n'est pas très français, parce que nous, on est très verticaux, très bonapartistes, très napoléoniens, très 5e République. C'est l'idée que tous les commissaires doivent avoir leur mot à dire. Or, dans la lettre de M. Breton, il y a quelque chose de très juste, de très vrai, que tout le monde sait à Bruxelles, mais que personne ne dit jamais, et qui n'a pas empêché la reconduction de Mme von der Leyen, c'est qu'elle a instauré une gouvernance verticale à nul autre pareil dans la Commission. Et que la Commission dysfonctionne à cause de ça. Ça ne signifie pas que M. Breton a raison sur tout, etc. Mais là, il dit quelque chose, de très vrai. Et puis, la dernière remarque que je voudrais faire là-dessus, c'est qu'au-delà de la personne de M. Breton, qu'encore une fois, on peut aimer ou de ne pas aimer, et Mme Chevrillon l'a bien dit, Thierry Breton, c'était aussi une certaine vision de la France au cours des 5 dernières années, consistant à dire le marché commun, la concurrence libre et non faussée, tout ça c'est très bien, mais le monde est plus dur que ça et nous devons nous durcir. Qu'adviendra-t-il dans la prochaine commission de cette vision que peut-être Thierry Breton a portée parfois avec maladresse et rudesse, mais dont on aurait sans doute beaucoup de raisons de penser que quelqu'un d'aussi inexpérimenté et avec aussi peu de crédit politique que M. Séjourné, s'il devait être confirmé, aura beaucoup de mal à porter.
Vous restez avec nous.
C'est qu'il ne parle pas anglais, en plus.
Oui.
C'est quand même un peu compliqué.
Ah bon,
il parle très mal anglais.
Ah bon, ça...
Vous me direz.
Enfin, il a quand même sur la forme, même s'il n'était pas, on va dire, un ministre extrêmement puissant aux affaires étrangères, parce que c'est quand même un domaine réservé, un profil, on peut l'espérer, beaucoup plus de diplomate que n'était Thierry Breton. Moi, je pense que c'est quand même aussi et surtout ce qui a pêché dans ses relations personnelles, même si elles sont professionnelles à la base, mais en one-to-one, comme on dit, avec Ursula von der Leyen.
Oui,
on sait très bien que Thierry Breton...
C'est une époque où ils bossaient bien ensemble tous les deux.
Ça a duré le Covid.
Oui.
Après, il y a ce moment de la crise énergétique où ça a basculé.
Pour les vaccins.
Et on voyait bien que
Thierry Breton visait autre chose. Enfin,
est-ce qu'on est quand même d'accord pour considérer qu'il a eu un rôle à jouer dans l'ensemble, quasiment l'ensemble des gros dossiers stratégiques que la Commission a dû gérer ces dernières années? Oui, vous parliez du Covid, il y a le Covid.
Non, mais il avait un rôle extrêmement important.
C'est lui qui sonne la révolte contre...
Pourquoi il a faussement claqué la porte, puisqu'en fait, il n'était pas reconduit finalement.
Parce qu'il était parti pour obtenir un poste...
Il n'était pas reconduit parce qu'il voulait beaucoup plus.
Joliste, entre autres.
Il n'acceptait pas cela.
L'un des premiers à sonner l'alarme, ils ont été nombreux sur l'IRA américain, l'acte sur les semi-conducteurs pour réduire la dépendance de l'Europe à l'Asie, la loi européenne sur l'intelligence artificielle, la task force pour assurer la vaccination contre le Covid dans l'Union européenne, la lutte contre la mainmise sur les GAFAM, on va en parler dans un instant, la montée en puissance des usines de production de munitions et puis la voie du nucléaire aussi qu'il a porté. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, Bruno, pour dire que quand même, il a été aux avant-postes de bien des dossiers prépondérants ces dernières années?
Ah oui, c'est tout à fait évident. Après, la question, et M. Pechberti la soulève, c'est est-ce qu'on doit avoir une commission qui est quelque chose de purement diplomatique, dans lequel il n'y a pas un mot au-dessus de trop, etc. Juste un exemple, sous la commission Barroso 1 et Barroso 2, pendant 10 ans, une seule fois, les commissaires ont voté pour se départager. Une fois en 10 ans. Bon, alors... est-ce que c'est ça qu'on veut? Ou est-ce qu'on veut, de temps en temps, des commissaires qui sont capables de dire au président ou à la présidente, ici, c'est pas le premier empire français, ici, on débat, et on a le droit de te dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, j'ai de la sympathie avec l'idée que on doit débattre. Mais là, où peut-être M. Pechberti a raison, et ça, c'est aussi un secret de Polichinelle, c'est que la façon... un petit peu gauloise, un petit peu franco-française, dont de temps en temps Monsieur Breton disait bon écoutez voilà moi je suis la voix de la France, c'est pas possible, etc., etc. Ça c'est vrai, ça a beaucoup agacé dans un système communautaire dont il faut toujours se souvenir qu'il est bâti, il est bâti pour donner raison aux petits par rapport aux grands.
Bon, qu'est-ce qu'on dit c'est donc comme... Qu'est-ce qu'on dit que la société civile, ça marche pas dans les gouvernements français, mais qu'au niveau européen, finalement, il faut des gens de la trempe de Thierry Breton, des patrons, quoi.
Je trouve que c'est bien de faire ce coup quand on voit un peu l'état de, enfin, quand même de, j'allais dire, déliquescence un peu excessif, mais dans lequel se trouve l'Union européenne. Donc moi, je trouve que c'est bien des gens. En plus, il s'est bâti, il a pris des dossiers, encore une fois, sur Internet, la réglementation d'Internet, des GAFAM.
On va pas dans un instant.
C'est quand même un point, je trouve, important. Après, peut-être qu'il s'est pas entendu, mais c'est qu'à la fin, parce que Ursula von der Leyen, je suis désolée, je vois pas pourquoi c'est pas non plus la reine de l'Europe.
On sait très bien pourquoi ça a dérapé la dernière année. Ça a dérapé.
Parce qu'il voulait son job, donc ça, évidemment, c'est pas très...
À l'approche des élections, tout est dit. À l'approche des élections.
Il a commencé à déraper.
Mais non, on le sait très bien. Et puis, il était lui-même secoué.
Bon, je parlais de réindustrialisation. Est-ce qu'il a ouvert des dossiers qu'il n'a pas refermés? Est-ce que les mises en garde sur l'IRA... Il a porté quand même cette vision d'une Europe souveraine. Voilà, c'était le chantre de cette Europe souveraine.
Non, mais il était, de toute façon, le porte-parole des industriels. Oui. C'était en partie son rôle. Et donc, ça, il le faisait bien. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Effectivement, ce qu'il a défendu pour une sorte d'IRA européen, alors que tous les Européens étaient complètement endormis et que les Américains commençaient déjà à avoir une croissance qui augmentait fortement avec toutes les entreprises européennes qui regardaient vers les États-Unis pour ça. Effectivement, il a porté cela, alors que Ursula von der Leyen ne le faisait pas. Donc, il faut pas
le
du tout.
Le problème aussi, si je peux me permettre, c'est que Thierry Breton, il était un peu comme la France. C'est-à-dire que ce que les cinq ou six derniers ont montré, c'est que la vision française, encore une fois, consistant à dire que l'Europe ne peut pas être qu'un marché, ça doit être un peu plus, cette vision, elle est quand même très sérieusement remise en question, ça a été dit par l'IRA, par la guerre en Ukraine, par le fait que depuis 2019, la Chine est considérée par l'Union européenne comme un rival stratégique, etc., etc. Le seul problème, c'est que la France a raison, en partie, au moment où elle est la moins exemplaire. Et donc, Thierry Breton, il était écrasé entre ce marteau et cette enclume. C'est-à-dire que les autres pays de l'Union européenne avaient envie de lui donner raison en oubliant éventuellement la forme, qui était parfois un petit peu brutale. Mais quand on regarde la France, elle ne fait pas envie. On n'a pas envie de la suivre. Ouais. Et il est très exemplaire de ce paradoxe cruel pour la France et pour l'Europe. Alors, je ne sais pas comment on en sort. Mais si je peux me permettre aussi juste une remarque.
Très vite.
Un petit problème institutionnel. Hein, parce que quand on a été en cohabitation... En 86, 88, 93, 97 et 93, 97, on avait deux commissaires. Et donc, pour régler les problèmes politiques, il y avait un commissaire de gauche et un commissaire de droite.
Absolument.
Pascal Lamy, par exemple, à gauche, mmh. versus M. Barnier à droite. Mmh. Bon, là, on peut pas faire comme ça. Mais il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a pas de problème dans la nomination oui. de... du prochain commissaire français.
Ah mais non, mais c'est après, eu, on n'a pas parlé. Après, mais
on, disait ce matin, ça va se faire en, on nous disait ce matin, ça va du oui. côté de Matignon, ça va se faire en bonne intelligence, je cite, entre l'Élysée.
De manière, je pense que là, tout le monde a été pris de vitesse, hein, complètement, y compris Michel Barnier. Donc il a été nommé tout de suite. Alors vous me direz, ça libère une place au ministère des Affaires étrangères.
Apparemment,
donc,
il est intéressé, il y a des gens intéressés.
C'était voilà, une ouais. manière sans doute d'éjecter ces fins de séjournée. Après, est-ce que pour l'Europe, c'est une bonne nouvelle? Bon, sachant qu'Emmanuel Macron est très européen, que Michel Barnier l'est aussi, il connaît bien les rouages de Bruxelles, mais enfin, c'est pas forcément un choix très encourageant pour le fonctionnement de la Commission européenne.
On devrait peut-être savoir, en tout cas peut-être demain, puisque Ursula von der Leyen a dit « J'espère pouvoir malgré tout présenter mon casting demain mardi, la composition de cette future compo européenne ». Merci Bruno, on vous remercie. Merci infiniment d'avoir été avec
merci
nous, ancien fonctionnaire à Bruxelles, et on se voit très vite évidemment pour débattre avec vous en plateau sur BFM Business. On a parlé de plein de choses, ces dossiers sur lesquels s'est illustré Thierry Breton. On va continuer, 18h52, vue sur le web, c'est Pascal Samama qui fait son entrée parce que BFMBusiness.com a phosphoré également toute la journée sur l'héritage de Thierry Breton. Bonsoir Pascal, merci d'être avec Pascal. Nous.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige.
On voulait revenir sur les autres combats, l'autre héritage finalement de Thierry Breton, c'est la lutte contre les GAFA et puis les questions liées à la défense. Là aussi, il laisse des choses quand même.
Il y a de très belles choses. On fait une belle ardoise à Thierry Breton. Vraiment, je trouve qu'il s'en prend injustement plein le dos, alors qu'il a réussi des choses et il a tenté des choses que personne avant n'avait voulu ou n'avait su faire. Première chose, quand il est arrivé, quand il a pris en charge le numérique, dès 2022, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait deux actes, le DSA, le Digital Service Act, ouais. et le DMA, ouais. Digital Market Act. Le DSA, c'était quoi ? Il voulait responsabiliser les grandes plateformes, les réseaux sociaux, en les contraignant à modérer les contenus et à collaborer quand il y avait des problèmes avec la justice. Bien sûr, personne ne voulait le faire. Il a quand même réussi à le faire globalement, sauf avec un, avec qui ? Avec Elon Musk. Elon Musk qui est libertarien, qui est pro-Trump. Et quand il a racheté Twitter, qui est devenu X en 2022, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est opposé frontalement. Ça a été loin, hein. Ça a été jusqu'aux insultes.
Ça continuait jusqu'à encore hier, j'ai envie de dire.
Et ça continue. Des noms d'oiseaux ont refusé récemment, oui, bien sûr.
Oui, vraiment. Et il n'a pas lâché la bride. Ça, c'est peut-être un échec, un semi-échec qu'il a eu. Par contre, le DMA, le Digital Market Act, c'était quoi ? C'était lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des GAFA. Et bien là, il a quand même réussi à faire, j'allais dire, ce que Arnaud Montebourg rêvait de faire à une époque, c'est-à-dire faire plier Google, faire plier Apple sur des choses, par exemple sur l'App Store. L'App Store s'est ouvert, personne... Moi, je suis la tech depuis très longtemps. J'imaginais pas une seconde qu'il réussisse à faire ce qu'il a réussi à faire avec l'App Store, ce qu'il a réussi à faire avec Apple Pay, c'est-à-dire Apple Pay, le service de paiement d'Apple qui s'est ouvert aux banques. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on imaginait. On pensait qu'il allait se prendre un mur et non. au contraire,
et
non.
Les amendes commencent à tomber.
Et les amendes commencent à tomber. Il a même réussi à faire plier Google avec Google Maps. Là, bon, c'est une victoire qui nous saoule un petit peu parce que quand on fait une recherche sur le moteur de recherche, on peut plus cliquer sur la carte. Oui. Mais quelque part, c'est donner l'accès à une concurrence plus juste.
La bataille contre les GAFA avait quand même, il faut le dire, était déjà ouverte par Margrethe Vestager, qui était quand même quelqu'un, un commissaire de poids à la Commission européenne, et qui d'ailleurs était plutôt en rivalité
mais
avec...
Mais succédait à des gens qui étaient un petit peu laxistes, ont été laxistes pendant des années. Hein, donc,
non, mais la chose qu'elle a justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que vous avez Thierry Breton qui part, Margrethe von Vestager qui part, qu'on a reçu ici plein de fois, et j'ai vu plein de fois à Davos. Ça veut dire que c'est quand même des figures emblématiques qui portaient la voix de l'Europe, y compris sur le plan international. Là, on se demande qui va porter la voix de l'Europe.
On va voir.
Surtout que le dossier est lourd, hein, quand même, les charges de Thierry Breton, c'est le marché intérieur, c'est la politique industrielle, c'est le numérique, c'est la défense et c'est l'espace. Rien que ça, j'ai envie de dire. Qui peut prendre autant de dossiers sur le dos et qui a réussi quand même à faire des choses.
Vous aurez un commissaire européen à la défense. Alors, pour la première fois, faut le préciser dans une commission. Commissaire à part, la défense sera à part dans la liste qui devrait être.
Est-ce que c'est une bonne idée ?
Je ne sais pas.
On verra.
La question est posée quand même, oui. quand on voit quand même les dépenses militaires.
Aujourd'hui,
dépenses,
ça peut se poser. Ça...
Oui.
Mais est-ce que ce sera au détriment... On nous reproche d'être trop français en France, on ne va pas être pro-allemand en France, ou alors on attendra que les Allemands soient pro-français.
Tout nous ramène toujours, on en parlait, à cette question de crédibilité sur le plan budgétaire et financier, finalement. C'est ça la base de tout.
Oui,
on
en
a toujours assez.
En fait, le sujet n'est pas tant le départ de cette figure qui est Thierry Breton, mais effectivement du poids des États membres derrière.
Exactement.
Et donc au premier rang desquels la France et l'Allemagne. On revient de manière inévitable sur ce couple franco-allemand. Donc, effectivement, la France, sur le plan politique intérieur, n'est pas. Oui, mais quand un pays n'est pas fort sur le. Mais l'Allemagne n'est pas non plus très forte. L'Allemagne n'est pas non plus très forte sur le plan de la politique intérieure. Elle a aussi une économie qui souffre beaucoup. Nous, on a une économie qui souffre même. On a un budget, effectivement, qui est quasiment exempt. Donc,
sur l'industrie de la défense, aussi là-dessus. Et von der Leyen le sait, elle était ministre de la Défense en Allemagne.
Et nous, on a des très bonnes entreprises.
Je ne vous sens pas spécialement emballé par l'arrivée de Stéphane Séjourné à la Commission européenne.
En tous les cas, ce que
tu dis. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire peser sur ces commissaires qui ont finalement le poids que veulent bien leur donner les États membres. Et donc Thierry Breton avait aussi ce poids de par sa personnalité. Il a quand même un égo extrêmement fort. Et parce que la France et l'Allemagne derrière, finalement, ne poussaient pas sur la scène européenne. On verra bien ce qu'il donnera, mais on ne va pas non plus déjà lui tirer dessus alors qu'on n'a pas encore vu ce qu'il pouvait faire. Il a davantage d'expérience, à mon avis, sur ces sujets et sur... Peut-être ce soupçon de diplomatie que Thierry Breton n'avait pas assez.
Eh bien, on verra peut-être demain. Déjà, on attend de voir si le casting de la commission en question sera dévoilé demain. Ursula von der Leyen disait il y a quelques heures, on va quand même essayer de tenir le timing.
C'est comme le gouvernement français, quoi.
C'est comme le gouvernement français. Peut-être pas cette semaine, d'ailleurs, ce gouvernement, si ça se trouve. On verra, on attend. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus pour cette première demi-heure du débrief. Mathieu Pechberti, Pascal Samama, on lit votre article sur bfmbusiness.com, bien sûr. Edwige, à demain.
On se retrouve demain. Je sais pas, j'attendais un peu le gouvernement.
On l'attend tous.
On va voir, s'il n'y a toujours pas de gouvernement, eh bien, on trouvera quelqu'un d'autre.
Raison de plus pour être là demain avec vous à 18h10. 18h57, on revient dans un instant. Le journal, on va reparler un petit peu de Stéphane Séjourné, de ce départ précipité de Thierry Breton. On va parler aussi de cette grosse manifestation à l'appel des syndicats d'Audi en Allemagne. Manifestation contre les fermetures de sites et puis plein d'autres actus qu'on décline avec nos experts. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good evening business.
Allez, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h. De quoi est-ce qu'on parle ce soir? Ce départ surprise qu'on n'attendait pas, c'est vrai, de Thierry Breton qui claque déjà la porte de la Commission européenne. On va en parler dans un instant avec Thomas Asportas. Et puis, bien sûr, avec nos experts jusqu'à 20h. Sinon, dans l'actualité ce soir, il y a cette grosse manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Bruxelles avec des syndicats et des salariés de l'ensemble du secteur automobile européen pour manifester contre ces fermetures d'usines qui se multiplient. Les menaces qui planent, elles sont dangereuses. Et puis, on parle un petit peu du budget 2025, parce que si ça se trouve, demain matin, Michel Barnier va avoir toqué à la porte de Matignon et Éric Coquerel et Charles Lecourson qui veulent absolument obtenir des documents sur ce qui se prépare autour de ce fameux budget. Ils en ont le droit. C'est vous dire quand même l'état d'esprit des uns et des autres en ce moment. Nos experts, donc, dans un quart d'heure. Il y aura du monde ce soir, le communicant Jacques Isabello, l'économiste Nathalie Janson, l'ancien député européen Lim Wong Nok et l'ancien Sherpa européen Guillaume Clossa. Bonne soirée. On est ensemble jusqu'à 20h.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. Regardez aussi BFM Business au bureau sur bfmbusiness.com ou en mobilité via l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France.
Good evening business, le journal.
Donc les choses sont allées très vite après la décision de Thierry Breton de ne plus être commissaire européen. On va y revenir dans un instant. Bonsoir Thomas. Donc c'est Stéphane Séjourné qui a été désigné pour être le candidat de la France. Pourquoi lui, Thomas ?
Pour trois raisons. Et la première, c'est le portefeuille. L'Élysée explique que la France veut un portefeuille clé dans la commission d'Ursula von der Leyen, un portefeuille centré sur la souveraineté technologique et industrielle et sur la compétitivité européenne. Et Emmanuel Macron veut que ce portefeuille soit le plus large possible, maximiser le plus possible la taille de ce portefeuille pour peser au maximum sur l'agenda d'Ursula von der Leyen. La deuxième raison, c'est d'avoir une personnalité politique, je cite toujours l'Élysée, de confiance pour porter ce portefeuille. C'est le mot qu'ils emploient. Quelqu'un qui a la confiance du président de la République et de la présidente de la Commission européenne. Et l'Élysée explique que le nom de Stéphane Séjourné s'est imposé à l'issue des discussions parce qu'il est rompu à la politique européenne. Vous le disiez, ministre partant des Affaires étrangères, mais aussi ancien président du groupe centriste Renew dans le précédent Parlement européen. Et enfin, la troisième explication donnée par l'Élysée pour ce choix, ce sont les équilibres politiques au sein du Parlement et de la future Commission. Ursula von der Leyen, on l'a vu, a été reconduite grâce à une coalition des conservateurs, des socialistes et des centristes Renew. Mais Renew a perdu beaucoup de députés lors des dernières élections. Ils étaient troisième groupe politique au Parlement en 2019. Ils ne sont plus que cinquième. Et donc Stéphane Séjourné va devoir aussi défendre le poids des centristes au sein de la future commission. Ursula von der Leyen, ça a été dit aujourd'hui, espère toujours présenter demain. Oui. Et dans laquelle Stéphane Séjourné devrait avoir le titre de vice-président exécutif.
Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous. Thierry Breton qui quitte donc ses fonctions et qui fait clairement porter la responsabilité à Ursula von der Leyen. Bonsoir Alix Le Bourdon. Vous êtes à Bruxelles. Qu'y a-t-il vraiment dans le message qu'a posté ce matin Thierry Breton, Alix ?
Eh bien, écoutez, dans une lettre de démission fracassante publiée par Thierry Breton ce matin et qui a créé l'effet d'un choc ici à Bruxelles, l'ex-commissaire français règle littéralement ses comptes avec la présidente de la Commission européenne. Il parle d'une gouvernance douteuse en expliquant qu'Ursula von der Leyen a demandé à Emmanuel Macron de retirer son nom pour le poste de commissaire français. Alors, on connaît bien sûr les tensions qui existent entre la chef de l'exécutif européen et l'ex-commissaire français. Thierry Breton était même allé jusqu'à incriminer directement Ursula von der Leyen après la nomination d'un eurodéputé de son parti, le Parti Populaire Européen, à un poste clé, alors même qu'à ce moment-là, Ursula von der Leyen avait justement besoin du soutien de son parti pour envisager un second mandat à la tête de la Commission européenne. Dans ce contexte, la démission du tonitruant commissaire français fait évidemment les affaires d'Ursula von der Leyen, mais certains, ici à Bruxelles, accusent déjà Emmanuel Macron d'affaiblir l'influence française à Bruxelles en cédant aux exigences de la présidente allemande de la Commission européenne.
Merci beaucoup Alix, ça fait partie des questions qu'on posera effectivement ce soir à nos experts. Emmanuel Macron a-t-il encore affaibli la voix de la France au niveau européen, au niveau international? Nos experts à 19h15-20h pour en parler évidemment sur BFM Business. Et alors 19h06, alors pendant que l'Europe essaie tant bien que mal de boucler sa commission, il y avait donc aujourd'hui à Bruxelles justement une grosse manifestation. Démonstration de force de salariés du secteur automobile pour protester contre les fermetures d'usines annoncées ou peut-être à venir, sur fond bien sûr de transition énergétique. Justine Vassogne.
5500 salariés selon la police, plus de 10 000 selon les organisateurs. À Bruxelles, les manifestants étaient d'abord réunis pour soutenir les 3 000 employés de l'usine locale d'Audi à Forest qui pourrait fermer ses portes dès l'année prochaine. Salvatore Tabone y travaille depuis 27 ans.
Après avoir fait beaucoup d'efforts chez Audi, ça c'est le remerciement qu'ils nous font. Ça va faire beaucoup d'emplois supprimés en Belgique à cause de ça.
Aux côtés des salariés d'Audi, des délégations venues de France, de Pologne, des Pays-Bas et d'Allemagne, car les menaces de licenciement sont légion en Europe, dans l'automobile, Volkswagen, la maison mère d'Audi, envisage ainsi de fermer d'autres usines, dont 2 ou 3 sites en Allemagne. Au total, 15 000 emplois pourraient être supprimés, selon les analystes de Jefferies. Le secteur automobile peine à réussir sa conversion à l'électrique, entre des ventes qui patinent et une concurrence chinoise de plus en plus vive. Le lobby automobile européen, la CEA, estime même que si les nouvelles règles européennes sur les émissions de CO2 sont maintenues, il faudrait réduire drastiquement la production de voitures thermiques dès l'année prochaine et potentiellement fermer 8 usines.
Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Et puis côté entreprise toujours, le Club Med qui cherche un nouvel investisseur et qui apparemment l'a peut-être trouvé du côté de Singapour. D'après nos informations, le fonds souverain local serait prêt à racheter 30% du groupe. Mathieu Pechberti.
Temasek est prêt à racheter 30% du groupe de tourisme par l'intermédiaire de son fonds spécialisé dans l'immobilier. Au Club Med, tout le monde pense que le fonds souverain de Singapour est le candidat désigné du propriétaire Fosun, qui cherche à réduire sa participation. L'ouverture du capital est gérée depuis Hong Kong par Bank of America, loin du siège parisien du Club Med. Une manière d'isoler un peu plus son président, Henri Giscard d'Estaing, soutient lui l'offre du fonds britannique CVC et de BPI France qu'il a réussi à mobiliser. Derrière cette opération stratégique se joue le bras de fer entre l'emblématique patron du Club Med et Fosun. Selon nos informations, le propriétaire chinois veut changer la gouvernance à la fin du mois. Son projet vise à transférer les décisions opérationnelles au conseil d'administration qu'il contrôle, une manière de retirer les pouvoirs d'Henri Giscard d'Estaing après avoir déjà évincé son bras droit cet été et de le pousser un peu plus vers la sortie.
Voilà le Club Med qui a peut-être trouvé donc son nouvel investisseur du côté de Singapour. Si le sujet vous intéresse, vous retrouvez bien sûr toutes les infos de Mathieu Pechberti sur notre site internet bfmbusiness.com. 19h09, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce lundi à la Bourse de Paris?
Oh, pas terrible, hein. Du point de vue du score,
tous
déjà.
Tous les soirs, vous nous dites ça.
Non.
Je suis navré,
non. Mais on sortait d'une semaine où on a fait plus 1,5% quand même. Donc là, c'était normal qu'on cale un petit peu, à moins 0,21%. 7449, puis surtout les volumes. Les volumes d'échange étaient vraiment pas fameux, hein. 2,2 milliards. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde sur le marché. À noter une très nette sous-performance, alors pour le coup, de la tech, des technos, à moins 1,24 pour l'Euronext Tech Leaders. Puis tiens, regarde. Sur le CAC 40, hein, ST Micro signe la plus forte baisse à moins 3,36, 24,89. Dassault Systèmes, moins 83 à 35,50. Capgemini, moins 1,55 à 190,15. Hein, véritablement un tir groupé, hein, de la tech européenne qui n'était pas très bien orientée. Puis à signaler à Worldline qui s'effondre totalement, moins 15,2% encore, 6,12 €. Mais Soitec, hein, signe quand même une baisse assez marquée, hein, moins 7,7% à 93,25 €. Sinon, ce qui a bien résisté, bah, Rexel, tiens, sur le SBF 120 qui a gagné 9% à 25,05 €. Offre de rachat totalement non sollicitée par un Américain, refusée par Rexel pour le moment, mais ça a le mérite de nous remettre un petit peu le projecteur autour de Rexel, qui a une valeur vraiment qui cote bien du côté de la Bourse de Paris. Il y a Virbac aussi, tient plus 7,99% à 392 €. Puis alors le reste des valeurs en hausse sur le CAC 40, de l'immobilier avec Unibail Rodamco Westfield, plus 1,28 à 77,50 €, du BTP avec Bouygues, plus 1,23 à 32,04 € et des services aux collectivités. Veolia, plus 1,14 à 30,12 €. Donc vraiment des grosses valeurs traditionnelles. Le CAC, moins 0,21, 7449 points. L'euro qui a bien forci face au dollar à 1,1129. Et puis surtout l'once d'or fin qui a encore signé record sur record. Là, on était à 2607 $ l'once.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Lagaudré avec nous sur BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance, le Dow Jones qui a battu un nouveau record en séance cet après-midi, qui grappille 0,3% en ce moment, 41 511 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui souffle un petit peu, moins 0,8%, 17 542. Tout ça à la mi-séance, bien sûr. 19h11, les experts arrivent dans un instant. Bien sûr, on va reparler largement du départ un peu précipité, on va le dire comme ça, de Thierry Breton. On va aussi parler de cette manifestation monstre aujourd'hui à Bruxelles pour la défense de l'emploi dans le secteur automobile. Il y avait beaucoup de monde. Et puis en France, le budget 2025, tremblé Michel Barnier. Si ça se trouve, demain matin, Éric Coquerel et Charles de Courson vont arriver en mode « Coucou, c'est nous, on vient chercher des documents pour le budget 2025 ». On parle de tout ça jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour refaire l'actu éco comme tous les soirs. Nathalie Janson est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue, professeur à Neoma Business School. Jackie Isabello, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Guillaume Closset est avec nous. Guillaume, bonsoir, bienvenue. Président d'Europa Nova, ancien Sherpa au Conseil européen. Et Lim Hongnok est avec nous. Bonsoir Lim, ancien député européen. Économiste et auteur de cet ouvrage. Il est sorti quand? Il y a deux mois, trois mois, c'est ça?
En mai.
En mai, l'Europe, ennemi de la République, point d'interrogation, je précise. Il y a quand même un point d'interrogation, mais la question est quand même posée. Quand même.
Il y a un sujet aujourd'hui.
Comment?
Il y a un sujet aujourd'hui.
Ben c'est pour ça que ça tombe très bien. Pour ça,
est-ce que c'est la République qui est ennemie de l'Europe?
Eh ben justement,
on peut le voir dans les deux sens. Hein.
Trois quarts d'heure à peine pour répondre à cette question.
Question rhétorique.
Bon, l'Europe, ennemi de la République, mais l'Europe est-elle ce soir orpheline? Ça vous de me le dire, de Thierry Breton, qui a donc surpris son monde ce matin en annonçant, il devait être 8h23, 8h26, par un tweet, qu'il ne serait plus candidat à un poste de commissaire européen. Il met clairement la responsabilité de tout cela sur les épaules d'Ursula von der Leyen. Et il y a eu ce tweet, alors si vous nous regardez à la télévision, ce tableau blanc
Il écrit « Mon portrait pour la future Commission européenne ». Voyez un tableau blanc, tout ce qu'il y a de plus blanc, avec une petite pointe d'ironie. Il annonce donc qu'il ne sera pas de la prochaine commission.
Est-ce que vous avez été surpris? Thierry Breton.
Ceci n'est pas Thierry Breton.
Par exemple, ça aurait été.
Est-ce que vous avez été surpris? Il a mis en avant ses dissonances avec Ursula von der Leyen. Est-ce que ça pouvait se terminer autrement, Guillaume Closa? Comment vous regardez ça?
Je pense qu'Ursula von der Leyen. D'abord, Thierry Breton a été reproposé par Emmanuel Macron en juillet, le premier commissaire, et ça semblait rouler jusqu'à la semaine dernière. Mais on savait aussi qu'il y avait des tensions entre Ursula von der Leyen et Thierry Breton, notamment parce que Thierry Breton voulait la place d'Ursula von der Leyen, et donc il a fait toute une série d'actions qui n'étaient pas forcément agréables pour Ursula von der Leyen. Attends, on a raison.
Pas épargné depuis le printemps dernier, donc, alors qu'elle était en campagne.
Il ne l'a pas du tout épargné, donc elle n'a pas forcément apprécié. Et il a recommencé il y a quelques semaines avec Elon Musk, sans prévenir Ursula von der Leyen, en créant une tension inutile, en fait, entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'on sait très bien que dès qu'on touche au GAFA, les Américains réagissent. Donc quand on le fait, il faut au moins le faire de manière coordonnée.
Et Ursula von der Leyen
pour pouvoir préparer la réponse.
C'est ça, Nathalie, elle n'a pas.
Et donc, en fait, il y a un choc de personnalité, il y a un choc d'ego, il y a un choc de volonté, de puissance. Avec, on voulait quelqu'un de puissant à la tête de la Commission, on a une femme puissante à la tête de la Commission. On voulait un commissaire européen français puissant, on avait un commissaire européen français puissant.
Nathalie.
Oui, je pense que ça traînait. Enfin, il y avait quand même des tensions nombreuses. Enfin, bon, voilà, elles sont pas nouvelles. Je pense que là, il a montré qu'il en pouvait plus parce qu'elle a été réélue et que ça n'y a pas plu. Il a été, voilà, et elle lui a fait comprendre que c'était elle qui était en place maintenant. Oui. Et que donc, s'il ne voulait pas, en fait, continuer, enfin, s'il était dans une telle opposition, effectivement, il n'y avait plus d'autres sujets que de s'en aller. Enfin, je pense que quand on est à ce point-là contre, enfin, qu'on affiche de façon très explicite son désaccord, et à un moment donné, il y a un problème de.
C'était pas forcément un désaccord sur le fond.
Non, pas sur le fond, mais de
personnalité, d'articulation.
Il l'annonçait, ce matin, alors que le casting de la commission dont il
est en train
devait être dévoilé demain mardi. Des infos de presse qui nous disent qu'il y a eu un coup de fil jeudi dernier entre Emmanuel Macron sous la verre d'aller. Elle lui dit si c'est lui, il aura un périmètre rikiki, parle-leur comme ça. Donc, si vous voulez un poste plus influent, ça ne sera pas lui.
Oui, voilà. Encore. Enfin, première étape, Breton monte au filet. Et parce que quand même, quand il a dénoncé la nomination de Marcus Piper, elle s'est quand même pris un vote de défiance de la part du Parlement. Donc c'est quand même pas innocent.
Émissaire qu'elle aurait nommé membre du PPE,
chargé pour s'acheter des PME, les votes du PPE. Et un eurodéputé allemand juste avant le congrès qui a affirmé la reconduction de Ursula von der Leyen en tant que Spitzenkandidatin. Ça c'est le premier point. Donc elle lui apprend comment on fait de la politique, c'est-à-dire que là il vient de se prendre un gros passing. Emmanuel Macron s'affaiblit en perdant les législatives. Donc elle sait très bien que les cartes sont rebattues, puisque Emmanuel Macron avait fait en sorte d'annoncer très en amont la nomination de Breton, ce qui ne devait pas être fait comme ça. Et puis la seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, Guillaume, c'est quelle va être la réaction de Michel Barnier. Michel Barnier a dit qu'il n'y avait pas de domaine réservé au président de la République, que ce soit sur toutes les affaires les plus régaliennes et sous-entendu la défense, les affaires européennes, et c'est un grand spécialiste d'Europe. Est-ce qu'il va accepter comme ça, comme le disait Guillaume, que le deal qui a été fait en faveur de Jean-Baptiste Séjourné soit enregistré, estampillé, sans rien dire? Moi, c'est ça que j'attends. Si jamais il ne dit rien,
il démonétise son poste.
Il n'a rien dit depuis déjà de 35%.
Ce matin, après le tweet de Thierry Breton, Matignon disait ça va se faire en bonne intelligence.
Arnaud Danjean, qui est un spécialiste des affaires européennes, est au cabinet du Premier ministre. S'il ne lui pose pas la question en lui disant est-ce que tu réagis ou est-ce que tu réagis pas, mais en tout cas, ça sera un marqueur clair de la place qu'aura le Premier ministre sur ces sujets-là, dont il a dit qu'elle n'était pas réservée
au président. Au moment où je vous parle, 19h20, il n'y a pas de réaction de Matignon, il n'y a pas de réaction de Michel Barnier. Mais on verra effectivement s'il se passe quelque chose. Lim Wangnok, Lim, vous qui êtes ancien député européen, comment est-ce que vous voyez ce psychodrame en plus? Est-ce qui affaiblit peut-être un petit peu la parole, la voix de la France à l'étranger, finalement? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Lim?
Premièrement, pour le dire trivialement, Mme von der Leyen a eu la peau de Thierry Breton, clairement. On passe les détails... Jackie est revenu sur certaines anecdotes qui sont déroulées récemment. Donc, elle a eu sa peau. Et plus généralement, le problème que ça pose, c'est qu'on voit bien ici que, y compris à la Commission, nous sommes dans le cadre d'une Europe intergouvernementale. C'est pas l'Europe fédérale dont certains rêvent. On est dans un cadre où ce sont les États qui s'affrontent pour déterminer qui aura la sphère d'influence la plus importante. Et Madame von der Leyen, au-delà de sa personnalité, qui est décrite comme une personnalité extrêmement autoritaire,
oui,
défend les intérêts de l'Allemagne. Et la France, aujourd'hui, est extrêmement affaiblie sur tous les dossiers. Pas seulement sur l'histoire de la nomination de Thierry Breton, mais si on prend tous les dossiers, elle n'arrive pas à faire valoir sa voix. Sur l'Inflation Reduction Act à l'européenne,
oui.
Macron peut faire tous les discours de la Sorbonne qu'il veut. L'Allemagne ne veut pas une mutualisation systématique des dettes. Les pays frugaux du Nord la soutiennent là-dessus. Sur les questions de défense, l'Allemagne ne veut pas de l'Europe, de la défense indépendante de l'OTAN que vend Macron depuis quelques années. Et l'Europe va rester aligné sur la défense américaine, y compris sur le plan du matériel.
Donc tout ça nous annonce une nouvelle commission aussi inopérante que la précédente.
Ça nous annonce surtout l'affaiblissement de la France.
Bon, je pense que si
Barnier intervient, Jacquet a raison de poser le problème, il le fera s'il est intelligent sur la souveraineté de la France dans cette Europe.
Guillaume. Je ne suis pas d'accord avec.
Vous êtes commissaire de Guillaume, je ne sais pas.
J'ai pas été en 2019.
Peut-être pour le gouvernement, parce que
Vas-y.
C'est une bonne info pour nous.
Ouais, mais a priori, c'est pas lui. Donc, mais cela dit, moi, je trouve que la France, quand même, s'est défendue et a défendu ses intérêts ces dernières années. La plupart des décisions qui ont été passées, le dernier quinquennat, le dernier mandat von der Leyen, étaient en convergence avec les intérêts français et souvent créaient beaucoup de tensions en Allemagne. Le plan de relance européen de 800 milliards, l'approche sur le Covid, la défense, etc. Les Français l'ont voulu. Et Breton a été un instrument, parmi d'autres, de la mise en œuvre de cette volonté française. Donc je serais un peu moins pessimiste, un peu moins cruel. Je trouve que nos intérêts sont plutôt bien défendus en Europe. La nomination des commissaires est quelque chose d'important. Ça dépend de la présidente de la Commission. Mais la présidente de la Commission n'est pas non plus perçu à Berlin comme l'instrument du gouvernement actuel. Et d'ailleurs, Madame Merkel était dans des relations qui étaient compliquées avec Madame von der Leyen. Et elle considérait Madame von der Leyen plutôt comme un électron libre. Donc, je trouve que vous êtes parfois un petit peu schématique, mais je comprends, dans un bouquin, il faut parfois être un peu schématique. Madame von der Leyen a une certaine autonomie. C'est une femme puissante. C'est une femme qui a de l'autorité. Certains disent qu'elle est autoritaire. Mais le commissaire français.
Elle doit quand même son élection, ça a été rappelé tout à l'heure, grâce au lobbying qu'elle a fait auprès du
PPE.
Conservateurs allemands et notamment du PPE, qui a pris position pour elle, alors que candidate naturelle.
C'est une femme qui est une femme politique, qui a une capacité politique et de l'influence. Et donc, on voulait.
Mais si vous prenez
c'est bien qu'elle fasse des compromis avec la France.
Le plan de relance,
c'est
pas grand chose. Sur les 750 milliards.
Mais le plan de relance,
c'est 390 milliards.
Il a atteint ses objectifs. La crise du Covid aurait été peut-être la crise économique, sociale et sanitaire la plus importante de l'histoire, encore plus importante que la crise de 29. L'annonce du plan de relance a permis de stabiliser le comportement des acteurs financiers pour éviter une crise financière. Le programme sûr qui a été mis en place.
C'est un one shot et plus personne aujourd'hui
Est-ce que ça va provoquer des institutionnels en France, ce qui est assez intéressant.
Non.
Alors si, moi je pense que ça peut être assez.
Je suis pas sûr.
La Commission.
Ça fait pas la une des médias ce soir.
La Commission. Oui, d'accord, mais vous savez, les crises, ça peut prendre du temps. Je pourrais vous en citer des dizaines. La Commission dit depuis un petit moment, nous avons un affichage à montrer à l'Europe, et cet affichage, c'est une commission qui soit plus paritaire. Cette commission n'est pas paritaire.
Loin de là.
La première réaction de la France.
Combien de pays n'ont pas respecté la recommandation qui était de nommer un commissaire,
une candidate. La France, c'est la France. Oui. Et nous, on a des obligations, des lois qui imposent la parité. Donc ça veut dire que la première réaction d'Emmanuel Macron, puisque Thierry Breton est sorti, ce serait un moment de se dire est-ce que je nomme une femme très compétente sur les sujets européens ? Il y en a beaucoup.
Il y avait des ben non.
Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Il annonce. Hein, et quelle est la première réaction qui est sortie ? Je vous le donne en mille.
Marine Tondelier.
Le Rassemblement National.
Et Marine Tondelier pour les.
C'est la nomination des Camarillas ou du copinage. Etc. Évidemment. Mmh. Parce que c'est un poste très important. Et donc, très rapidement, de nommer Jean-Baptiste Séjourné à des postes qui sont.
Jean-Baptiste
Séjourné, c'en est un autre, c'est haut fonctionnaire.
Stéphane, lui, s'appelle.
À qui j'ai travaillé, pardon, pour lui. Bonjour, Jean-Baptiste. c'est effectivement de se dire cette nomination, elle va former des mécontentements. Et je pense que quel est l'impact en France, c'est aussi une question que l'on doit se poser. Alors que la situation est quand même politiquement extrêmement complexe.
Plus votre influence recule, plus vous avez besoin de nommer un proche, voilà, un affidé à un poste comme celui-là.
Oui, mais Emmanuel Macron n'a plus le pouvoir. Il a été incapable de désigner un Premier ministre en plus de 80 jours.
Nathalie.
Voilà, ces postes-là font partie des choses qui vont être critiquées ou soutenues par les forces politiques en présence.
Comment est-ce que vous êtes par rapport au bilan, à tous ces dossier qui a fait bouger Thierry Breton. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il a été au cœur ou il a eu un rôle à jouer dans tous les grands sujets stratégiques que la Commission européenne a eu à traiter finalement pendant
ce temps? Oui, là, on peut pas enlever son rôle très, très proactif, parfois même peut-être un peu trop, mais à mon goût, mais ça c'est autre chose. Mais oui, il a eu un rôle moteur dans tous les dossiers défendus, et notamment les derniers en date sur le digital. Mais bon, là, son action a pu aussi atteindre certaines limites et a pu aussi être critiqué.
Je cite certains dossiers sur lesquels on l'a entendu. Il a été proactif, vous me direz peut-être pas suffisamment. Je parle de l'IRA, vous l'avez dit, il a été un de ceux qui ont été très nombreux à sonner l'alerte contre le plan américain. J'ai quoi ? L'acte sur les semi-conducteurs pour réduire la dépendance de l'Europe à l'Asie, la loi européenne sur l'intelligence artificielle, la task force pour la vaccination contre le Covid, le combat contre la mainmise des GAFAM, bien sûr, la montée en puissance des usines de production de munitions en ce qui concerne la défense, et la défense du nucléaire dont les Allemands n'avaient plus vraiment envie de parler. Voilà. Voilà. Bon,
après tous ces sujets emmerdent les Allemands, très précisément.
Alors, tous ?
Bah oui. Tous, peut-être pas, non ?
Bah, le nucléaire, ça les embête. Les histoires de défense, ça les embête. L'histoire de défense, ça les embête. Les histoires de voitures, ils ont fait le lobbying pour reporter l'échéance 2035. Enfin, on peut allonger la liste. Hein. Ça les arrange bien de dégager beaucoup.
C'est peut-être aussi pour d'autres raisons. C'est peut-être parce qu'ils se disaient que c'était pas forcément ce qu'il fallait faire en ce moment. Enfin, je veux dire, faut pas non plus toujours les accuser de voir le mal partout. Ils peuvent aussi être en désaccord.
Ils défendent leurs intérêts.
Bah oui, enfin, leurs intérêts, ou peut-être de se dire que c'est peut-être pas, il faut peut-être pas y aller à ce point-là en 2035. Peut-être qu'il y a d'autres choses à considérer.
Il y a Porsche derrière quand même.
Comment ?
Il y a Porsche derrière qui a fait le lobbying.
Il y a Porsche.
Peut-être que Porsche fait le lobbying à juste titre.
Guillaume Clausat, vous êtes comment avec ce bilan non exhaustif ? J'ai donné quelques.
Il m'est arrivé d'être régulièrement critique à l'égard de Thierry Breton, mais je trouve qu'il a un vrai bilan.
Il avait des vraies positions.
Je dis pas qu'il est tout son bilan, c'est pas que lui en vérité. Il s'est appuyé quand même sur des équipes de qualité, sur des directions générales de qualité qui ont préparé le travail. Il y a des choses que j'ai trouvées maladroites. Pour être honnête, mais là je suis parti pris parce que j'avais préparé pour la commission le premier rapport sur la régulation des plateformes et sur la souveraineté numérique européenne. Je regrette qu'il se soit directement affronté aux plateformes. Moi, c'était pas du tout ma recommandation. Ma recommandation, c'était de faire auditionner par le Parlement européen les dizaines de milliers de gens qui avaient travaillé pour les GAFA pour qu'ils expriment les problèmes que ça posait aux États-Unis en matière de concurrence, en matière de déstructuration du débat public, etc. Plutôt que de faire David contre Goliath et de se mettre en avant. Et ça aurait permis d'avoir une réglementation européenne qui soit, à mon avis, plus puissante.
Oui.
Et surtout, de ne pas avoir le gouvernement américain contre nous sur ce point, ce qui ne servait à rien.
Si on avait des géants de la tech en Europe, Guillaume aussi.
Oui, mais les géants de la tech, si je puis me permettre, le sujet sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet que je connais.
Oui.
J'ai porté la première initiative dans le cadre de l'Union européenne de radio-télévision en 2014 sur ce sujet. On devait avoir une stratégie déjà en 2019. Et donc, on a perdu beaucoup de temps.
Oui, mais Guillaume, ce que vous savez, parce que vous avez
on avait l'option.
Ce que vous savez en face, c'est qu'en tant que politique, M. Breton avait un gros problème, c'est le dossier d'Atos. Et donc, quand vous avez un bruit, qu'est-ce qu'on fait à l'aéroport? On crée un contre-bruit. Ouais. Et donc, il y avait quelqu'un qui était spécialement chargé du dossier chez lui, parce qu'il fallait absolument pas, oui, mais dans l'image de Thierry Breton, qui est un homme politique, qui est un homme politique remarquable, qui est aussi, à sa manière, quelqu'un qui, économiquement, eh bien, a porté des combats, mais il fallait aussi éteindre ce dossier et... En éteindre ce dossier, bah c'est créer du contraste dans les médias, c'est créer du discours. Et si, d'un point de vue de l'opposition, et je termine avec les GAFAM, c'était pas forcément très malin, et je vous rejoins complètement. Par contre, politiquement, pour lui, il valait mieux
mais
le faire.
Mais il pouvait le faire avec une autre méthode. Oui. Parce que, honnêtement.
Sur l'IA, il a fait
honnêtement, lors de son audition. Pardon, mais je reviens aux choses de 2019. Lors de son audition de 2019, pour moi, il a fait quelque chose qui était très bien en disant voilà, il y a un certain nombre de secteurs prioritaires, et dans ces secteurs, on va avoir des stratégies systémiques. Des stratégies industrielles systémiques, avec une transversale qui est, en gros, l'intelligence artificielle, et une deuxième qui est le développement durable. Et ces stratégies systémiques supposent qu'il engage l'ensemble des secteurs, avec les entreprises et les syndicats, secteur par secteur, pour réfléchir à l'avenir et se projeter. Ce travail, il aurait pu le faire, et croyez-moi, ça aurait occupé les médias, et ça aurait occupé l'espace public, et tous les espaces publics nationaux, on devait le faire. Et c'était un travail qui était difficile, et parfois c'était plus facile, en effet, de lancer des pavés dans la mare que faire un travail de fond. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'ait pas fait ce travail de fond. Ça aurait fait autant de bruit.
Allez, on dit
et au moins du bruit utile pour les Européens et pour les États membres.
On fait une petite pause, oui, mais on l'a beaucoup vu dans les médias depuis 5 ans, Thierry.
Ah, mais c'est un très bon homme de médias, et ses communicants sont remarquables.
Puis, il plaît, c'est un bon.
Ouais,
un
il a plein de qualités.
Un bon client, comme on dit, s'il en faut. Voilà. On revient dans un instant, 19h32.
BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir.
Allez, 19h36, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, Jacques Isabello, Nathalie Janson, Limon Gnoc et Guillaume Closa avec nous sur le plateau. Ben, on va rester dans notre prisme européen, si vous me passez cette expression. Parce qu'on voulait quand même dire un mot de cette grosse manif qui s'est déroulée à Bruxelles aujourd'hui. Alors, manifestation des salariés d'une usine Audi de Bruxelles qui est menacée de fermeture, hein, qui emploie 3000 personnes. Sauf que, vous allez voir, il y a les images qui vont défiler si vous nous regardez à la télévision. Sont venus se greffer des délégations d'autres pays qui se posent aussi beaucoup de questions. Vous avez des troupes d'IG Metall qui sont venues d'Allemagne après les annonces, vous savez, notamment chez Volkswagen. Avec ce débat sur le fait de savoir si beaucoup de sites à terme européens vont être condamnés à la fermeture. Je regarde le chiffre, c'est 14 millions de salariés en Europe, l'industrie automobile, directement ou indirectement. Et là, les menaces se rapprochent. Cette usine Audi à Bruxelles, Volkswagen qui pourrait fermer peut-être des sites. La menace n'a pas été exclue là, la semaine dernière. Comment est-ce que vous regardez tout ça, Guillaume Closa? Est-ce que le mouvement est inéluctable? Est-ce que on se préparait
En tout cas, il y a une dynamique qui est que les gens utilisent, qui est une dynamique voulue, hein, qui est liée au réchauffement climatique. Les gens utilisent de moins en moins et utiliseront de moins en moins de voitures individuelles. Ça, quelque part, c'est voulu. Plus de transports collectifs. Donc, c'est pas bon pour... Et une concurrence qui est aujourd'hui très forte, notamment de la Chine.
Ouais.
Donc, il y a une équation qui est compliquée à résoudre. Et le sujet, c'est comment on assure la transformation de ces industries pour permettre de garder des emplois à haute valeur ajoutée. Et le cas échéant, comment on passe d'une industrie à l'autre.
Est-ce qu'on va à l'électrification, va à l'électrification à toute vitesse? Enfin, vous voyez les partisans de l'électrification à tout prix, ceux qui commencent à freiner des cas de fer aujourd'hui.
Il n'y a pas de question facile. Donc il y a un énorme travail prospectif à faire qui n'a pas été suffisamment fait ni par les États membres, ni par les institutions européennes, parce que c'était une question taboue. Et donc il y a un moment où il faut mettre les questions sur la table et il faut vraiment réfléchir pour aller vers la société vers laquelle on veut aller. Les Européens veulent aller vers une société non carbone. Ils ont des objectifs qui sont extrêmement ambitieux, mais pour les tenir, eh bien, il faut qu'ils mettent en place aussi les dynamiques de transformation, de réindustrialisation, de développement de nouveaux métiers qui ne sont pas du tout évidents à mettre en œuvre.
Objectif trop ambitieux, trop rapide, Lim, comment
la réponse à la question que pose très justement Guillaume se trouve dans l'IRA américain, d'une part, et dans le rapport Draghi. Oui. Draghi fait écho dans son rapport au sujet que mettent sur la table les syndicalistes aujourd'hui à propos de l'avenir de l'industrie automobile. Il faut un IRA à l'européenne. Alors il a chiffré ça à 800 milliards par an. Donc,
vous appelez ça l'IRA européenne?
Non, mais moi j'appelle ça l'IRA européenne. Alors après, le sujet, c'est est-ce qu'il faut faire ça à l'échelle européenne, ou est-ce qu'il faut permettre aux différents pays, en leur donnant des marges de manœuvre budgétaires, de le faire en fonction de leur spécificité nationale, ce qui est plutôt ma position et c'est celle que je développe dans le bouquin. Mais le sujet est sur la table, et aujourd'hui les gouvernants des États européens, puisque on est dans un cadre où l'intergouvernemental prime encore très fort, ne peuvent pas continuer à tenir uniquement le discours de l'austérité s'agissant de la politique industrielle.
Bon, moi, j'avoue que j'ai une opinion assez divergente par rapport à ça, parce que déjà, et d'une, le véhicule électrique qui s'est développé aux États-Unis, Elon Musk, il a fait un pari que personne ne croyait, il a réussi. Ouais. Bon, après, il a des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que l'électrique est né là-bas sans aucun plan conçu avant. Déjà, c'est la preuve que parfois on peut avoir des initiatives, effectivement. Enfin, il y a des initiatives parce que quelqu'un pense que ça peut être une solution à un problème donné. Voilà. Et il n'est pas généralisé. Et en face, de l'autre côté, on a la Chine qui a décidé que tout serait électrique. Et eux, c'est une fois que c'est décidé, c'est tout le monde. Il y aura pas, on va pas aller à moitié. Donc, on a, par rapport à ça, on se retrouve coincé. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien faire comme les Chinois, mais en fait, on fait pas comme les Chinois. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on dit, non, mais on va faire tout électrique. Mais en fait, on n'en sait rien si on doit faire tout électrique. Moi, c'est ça, surtout, qui m'agace dans ces, qu'est-ce qu'on sait quand on fait, pourquoi on n'aurait pas une multiplicité de solutions par rapport au problème de la voiture et de la façon dont on va générer des nouveaux et des innovations. Et je pense que le rapport Draghi, justement, il allait dans ce sens-là en disant on ne favorise pas assez l'innovation. C'est ça le point. Et malheureusement, je pense pas, enfin pour moi en tout cas, c'est pas un plan, un autre plan, un énième plan qui fera la différence, puisque la Chine, elle l'a déjà fait. Oui, de toute façon, on est mort de ce côté-là. On va pas aller concurrencer la Chine qui a déjà été sur ce...
Ce que dit Draghi quand même, hein, il dit en gros, et je reprends ce que vous dites, on est pris dans les taux américano-chinois. Les Américains comme les Chinois ont décidé de faire l'Europe un terrain de jeu, et comme on est désunis parce qu'on n'est pas une fédération, eh bien on est perdant à tous les coups. Et aucun État membre n'a la taille critique pour avoir le marché suffisant pour faire de l'innovation, parce que Monsieur Musk, il fait de l'innovation, mais il fait de l'innovation tout de suite à la taille du marché américain, tout de suite.
Non
mais
ça prend pas sur tout le territoire.
Mais je suis aussi entrepreneur. J'ai travaillé pour les... mais je suis aussi entrepreneur. Le sujet, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, si j'ai un projet d'entreprise, ma valo, elle sera sur la taille du marché français. Et non, mais je ne suis pas très très loin. Il n'y a pas de marché européen aujourd'hui. On n'a pas fait le marché européen du numérique. On n'a pas fait le marché européen des technologies. Et Draghi, il dit, il faut accélérer le marché européen du numérique. Il faut accélérer le marché européen de la défense. Il faut accélérer pour qu'il y ait une taille critique et pour qu'on puisse aussi avoir les mécanismes de prise de risque qui permettent une rentabilité. Alors, et qu'on n'a pas aux échelons nationaux.
Jackie Isabello.
Ouais, je suis assez d'accord avec Guillaume aussi, mais j'allais juste rajouter à ce qu'a dit Lim.
Mais on est tous d'accord.
La dimension subvention, moi, je dirais plutôt, il faut achever cette union des marchés de capitaux. C'est quand même très important que l'ensemble des opérateurs privés puissent se saisir du financement de l'innovation.
Mais à quelle vitesse ça avance? L'union des marchés de capitaux
avance
aujourd'hui.
Ça n'avance pas du tout.
Et ça, c'est vraiment le gros problème.
Du bout des lèvres.
Parce que la politique de subvention, bon, c'est très bien, il faut la mettre en place comme l'ont fait les Américains. Ouais. Mais la loi ERISA de 74, qui a projeté énormément d'argent et qui a financiarisé le monde, qu'on soit d'accord ou pas, c'est ça qui permet de financer l'innovation. Et moi aussi, je suis entrepreneur, j'entends toujours.
Mais il y a deux choses quand même aux États-Unis qu'il faut préciser et en Chine.
Il y a un problème de traction. C'est-à-dire que d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue institutionnel, les autorités européennes tractent avec une réglementation qui est extrêmement rigide. Qui est rigide, et la réglementation CAF qui doit s'imposer demain et qui va coûter énormément d'argent à nos opérateurs, elle est problématique. Et de l'autre côté, et là, je suis d'accord avec Nathalie, c'est que nos marchés ne réagissent pas comme les marchés chinois. Moi, je vais vous dire très clairement, j'ai une famille plutôt modeste, j'y étais ce week-end, ils étaient tous là en train de discuter, ils m'ont dit « Ouais, ma bagnole, diesel, l'année prochaine, critère 3, je rentre pas à Lyon. » Vous savez ce que c'était leur réponse? C'était rien à foutre. Ils vont pas mettre leur voiture diesel qui a 70 000 km à la casse. Ils vont tout, donc il va y avoir des frictions sociales, parce que leur dire demain, t'as C3 Picasso qui a 70 000 bornes, peut-être que tu as acheté il y a 10 ans pour acheter une voiture électrique, eh bien ils vont prononcer des grossièretés. Donc ces tractions de marché.
Non, mais ça nous renvoie à cette date de 2035, évidemment. Mmh. Pour la...
Et voilà, ben, il faut le prendre en compte parce qu'on est quand même une démocratie. Et ces grands opérateurs qui doivent décider eh bien, de leur volant d'investissement, de la manière dont ils vont adapter leurs outils industriels, eh bien, on est pris dans cet étau-là. Et c'est un problème compliqué.
Juste sur la prise de risque, quand même, parce que c'est important. Les projets, pour évaluer le développement d'un projet, il y a quelque chose qu'on appelle le TRL. Ça va jusqu'à 9. En Europe, on investit TRL. TRL 7, c'est-à-dire quand le projet est à 2 ans de l'industrialisation. Aux États-Unis, c'est TRL 3. On investit beaucoup plus tôt. On prend un risque beaucoup plus tôt, premièrement. Et donc là, on n'a pas la culture de l'investissement. Et ça, c'est partout en Europe. Hein. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les investissements super risqués, ils sont garantis fédéralement. Aux États-Unis pour les investissements d'ampleur ayant un impact national et stratégique. Et le troisième point, c'est que la défense, on parle de la DARPA, mais la DARPA, c'est 3 milliards. La défense, l'armée, a un budget de 150 milliards. Et ce budget sert aussi à des investissements massifs et à créer des écosystèmes. Donc, ce n'est pas uniquement la concurrence, c'est qu'il y a un poids politique. C'est 150 milliards, c'est la moitié de la R&D européenne. Juste le budget de l'armée pour investir dans la R&D, l'innovation. C'est énorme. Et c'est pas uniquement les 3 milliards qu'on appelle, qui sont sur l'innovation de rupture. Donc il y a une capacité d'investissement dans l'innovation aux États-Unis qui est considérable et qui est aussi étatique. Et il faut le dire.
Bien. Voilà pour l'automobile. J'étais sur la date de 2035, effectivement. C'est Thierry Breton lui-même qui disait il y aura une clause de revoyeur.
Il y a un point qui est important qui va faire plaisir à Limon. Moi, je suis entrepreneur comme vous. Quand on a une société qui est aussi puissante que le groupe VAG, on fait la loi partout. Et si on a décidé d'être just in time ou de mettre les moyens parce que à l'intérieur, il y a des gens qui ont la vision, on fait ce qu'on veut. Et qu'ils nous expliquent qu'ils ont des contraintes mondiales, certes, mais quand on est l'entreprise la plus puissante du monde, parce que tous les Chinois rêvaient d'avoir une voiture du groupe VAG, ils se sont quand même lamentablement plantés sur la manière dont ils ont compris ce qui se passait et la mise en œuvre.
Allez, voilà.
Parce qu'on ne peut pas dire, j'arrive à vendre des voitures partout dans le monde, et le lendemain, pleurnicher en disant, ah, c'est compliqué, voilà. On a des concurrents.
Voilà,
je suis d'accord avec vous, il y a des responsabilités managériales. Hein.
Pour l'automobile, il faut qu'on accélère et passer au budget 2025. La pression sur Michel Barnier, qui, si ça se trouve, va avoir déboulé demain à Matignon. Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée, et Charles de Courson, rapporteur général du budget au Sénat. Parce que ces messieurs, la Constitution leur donne le droit, peuvent faire des perquisitions de matin pour exiger des documents relatifs à la préparation du budget 2025. Je ne sais pas si à l'heure où on se parle, ils ont reçu les documents. En tout cas, écoutez Éric Coquerel ce matin, qui était assez cash sur le sujet.
Soit le Premier ministre nous dit, ces lettres de plafond qui ont été envoyées par Bercy, c'est-à-dire par l'ancien ministre des Finances, ne valent rien, je les déchire, donc il n'y a pas de raison que vous les ayez.
Elles ont été envoyées aux différents ministères déjà.
Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, et ce qui lui posera un problème de délai, à mon avis, pour essayer de construire un budget. Soit c'est pas le cas, ce que je crois, c'est-à-dire je pense que ça va être au moins la base de travail importante du prochain budget, et dans ces cas-là, il faut qu'on ait ces lettres de plafond, il faut qu'ils le disent aujourd'hui, ou le même document, mais qui détaille de la même manière le budget, donc c'est aujourd'hui qu'on lui demande sa réponse, et sinon, effectivement, avec Charles de Courson, nous irons demain à Matignon.
C'est le cas, ça fera des belles images. Ça nous donne un avant-goût de ce qui va se passer à l'Assemblée à l'automne, au Parlement, autour de ce budget. Ça fait un peu froid dans le dos, Lim, quand même. Quoi.
Oui. Moi, je pense que M. Barnier n'aura pas de mal, dans sa lettre qu'il a promise ce soir, à rappeler les objectifs qui étaient déjà ceux fixé dans les anciennes lettres plafond. Donc ça peut être dégonflé très rapidement. Ce que l'on voit là, c'est un spectacle où, une nouvelle fois, le président de la Commission des Finances, qui est un des membres éminents de la France Insoumise,
Coquerel,
va se délecter de brutaliser la vie politique, comme on dit pudiquement.
Il ira, ça se trouve, bras dessous avec Charles de Courson demain matin, si ça se trouve.
Oui, mais il trouvera toujours des alliés. Il trouvera toujours des alliés pour ça, qui ont envie d'exister sur la scène publique. Mais l'aubaine est trop belle pour la France insoumise, d'une fois de plus brutaliser la vie politique.
Nathalie, ça vous donne un avant-goût de ce qui nous attend cet automne au Parlement, là, autour de...
C'est certain que je pense qu'il va y avoir des motions de censure. Enfin bon, je pense qu'il y aura... Il va y avoir une manifestation de désaccord, puisque la nomination de Michel Barnier ne plaît pas, de toute façon, à...
Non, mais au-delà de la censure, la censure, toute la gauche va la voter, normalement. Le vrai sujet, c'est est-ce que le Rassemblement National se joint aux voix de la gauche. C'est là qu'on aura le test.
bien sûr, c'est ça.
Mais là, je parle de la forme prise par la réaction du président de la commission des finances. Quoi.
Bah, de toute façon, il adore être en avant, donc ça fait partie du personnage. Il va pas baisser les bras en route. Enfin, je veux dire, il a une très belle scène qui lui est offerte. Il l'a saisie. Il la monopolise.
Tout ça sous l'œil des investisseurs internationaux, parce qu'il faut jamais oublier que ceux qui nous prêtent au quotidien vont nous regarder pendant toute cette séquence jusqu'à la fin de l'année.
Pour le coup, autant j'ai souvent critiqué la brutalisation de l'espace politique par la France insoumise. Là, j'aurais tendance à dire, en tant qu'éminent responsable de l'Assemblée nationale,
oui, pour une fois,
Éric Coquerel utilise les règlements qui sont à ça, et qu'il aille aussi réaffirmer un message important, et que Michel Barnier, de toute façon, doit entendre. C'est-à-dire que sans l'approbation du Parlement, et sans une majorité qui est constituée de forces opposées, il ne fera rien. Mmh. Et donc tout son talent d'ancien commissaire européen va être mobilisé. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il le fait. Et s'il va avec Charles de Courson, comme on connaît tous Charles de Courson, en plus, on devrait bien se marrer parce qu'il est toujours, il a toujours un bon mot dans la poche.
Oui.
Et ça rappellera de la meilleure des manières que les députés ont décidé d'exister. Voilà, une image vaut mille mots. Si ça se passe comme ça,
on gardera un sac du pop-corn devant la télé. Sous le regard des investisseurs internationaux, Guillaume Clossat, je le redis.
Oui, mais ils sont
habitués, c'est ça?
Non, mais ils sont rassurés par la nomination de Michel Barnier pour l'instant.
Oui, mais pour combien de temps?
Enfin, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, parce qu'on va voir le talent de Michel Barnier se déployer.
Ouais.
C'est quand même le seul homme politique qui est quasiment encore en scène, qui a 20 ans d'expérience européenne, qui a travaillé dans des commissions de coalition, parce que la Commission européenne, c'est toujours des coalitions. À Bruxelles, c'est assez marrant, mais il s'entendait très bien avec Mélenchon. Et Mélenchon était un des premiers à l'applaudir. Non, mais quand Mélenchon était député européen, je suis désolé de le rappeler, mais il adorait Michel Barnier. Mélenchon adorait Michel Barnier.
La botte secrète,
ils avaient de très bonnes relations. Mmh. Et ce que Michel Barnier a fait comme commissaire européen au marché intérieur en réglementant les banques, ça allait exactement dans le sens que souhaitait Mélenchon. Donc,
il
est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire.
Ils sont des deux côtés de la barre. Là,
sur les banques, il a pas
été.
Il n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire.
Canel, il n'a pas été au bout. Hein.
Peut-être qu'il n'a pas été au bout, mais il a été bien au-delà de ce que beaucoup pensaient. Mmh. Et ça n'a pas plu à beaucoup, beaucoup de gens. Notamment beaucoup de banquiers, il faut le dire. Mmh. Et donc, Michel Barnier est quelqu'un qui a été très apprécié dans ses différentes fonctions de commissaire européen.
Oui.
À la cohésion d'abord, où il était unanimement respecté. Au marché intérieur, où il a commencé à apprendre l'anglais. Et puis, non mais c'est vrai.
Contrairement à d'autres, il a fait des efforts.
Il a fait des efforts. Et comme directeur général au Brexit, puisqu'il avait un rôle de directeur général au Brexit, il s'est fait apprécier de tout le monde, même des Britanniques. D'ailleurs, il maîtrise très bien maintenant la langue de Shakespeare, où il est beaucoup plus connu qu'en France.
Ouais,
c'est une star. Il arrive, il est applaudi quand il arrive au Royaume-Uni, parce qu'il a été ferme face à des gouvernements britanniques qui étaient instables et incohérents.
Grâce à Michel Barnier, j'ai gratté 15 jours, 3 semaines pour présenter notre trajectoire de production et de déficit. C'est toujours ça de prix. Allez, 19h52, l'extra time pour terminer. Beaucoup de gueule, coup de cœur ou coup de cœur, gueule sur 30 secondes, comme tous les soirs, c'est la règle impitoyable de cette émission. Qui va commencer, Balim? Tiens, 30 secondes, c'est parti, Lim, c'est à vous.
Ah ben, j'ai un coup de cœur sur les déclarations... presque conjointe de François Hollande et de François Ruffin, les deux François, qui posent dès maintenant publiquement sur la table le problème Mélenchon, très précisément. Parce qu'ils ont raison de dire que si la gauche veut gagner et développer un programme crédible...
Je rappelle que vous êtes revenu au Parti Socialiste, Olim, il y a quelques mois.
Oui, c'est ça. Oui. Bah, justement, ça me permet de dire ce que je dis. Et
d'accord.
Il y a un boulet Mélenchon à gauche. Mais si François Hollande veut faire rosir la rose, il va falloir qu'il discute avec sa gauche.
Très bien.
Et c'est pour ça qu'on pourrait l'inviter à dialoguer avec François Ruffin. Mmh.
Très bien, le problème est posé. Voilà, le coup de cœur, le coup de cœur ce soir de Lim Hong Nok. Guillaume Clossat, est-ce que vous avez un petit... Allez, 30 secondes, allez-y.
C'est plutôt le coup de blues, c'est que...
Ouais.
Moi, je trouve que ce rapport Draghi est un très bon rapport. C'est le résultat de beaucoup de rapports préalables et de travaux qui ont été menés, sur lequel, pour moi, il y a un consensus, au moins dans beaucoup d'opinions publiques européennes. Mais j'ai l'impression que les dirigeants européens, en fait, ont envie de s'en débarrasser parce que ils les invitent tellement à se dépasser que ça les emmerde. Et donc, j'aimerais pas que ces mini-crises quotidiennes nous fassent oublier les recommandations de Draghi et tout le travail qui a été fait, qui n'est pas que le travail de Draghi, sur la nécessité pour l'Europe de se réinventer, de se donner les moyens d'exister dans un monde qui n'est plus européen.
Le coup de blues ce soir, on va l'appeler comme ça, de Guillaume Clossa. Nathalie Janson, 30 secondes.
Alors moi j'ai un coup de cœur pour le dernier rapport de la Banque mondiale sur le rôle de l'importance en fait de la mondialisation et du commerce international dans la réduction des écarts de pauvreté entre les pays riches et les pays en développement. Donc ça fait du bien parce que comme on entend parler de souveraineté, on va fermer les frontières, ça va aller mieux. En fait, le rapport, encore une fois, puisque c'est une vérité qui n'est pas nouvelle, montre bien que la globalisation permet la convergence vers le haut des revenus. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était à saluer.
Voilà le coup de cœur ce soir de Nathalie. Jackie Isabello, pour terminer.
Le bouquin d'Antoine Fouché, qui a été le directeur de Muriel Pénicaud, qui s'intitule « Sortir du travail qui ne paie plus ». Il rappelle qu'entre 50 et 2000, on vivait mieux, on tendanciellement travaillait moins, l'économie était plus productive. Et il dit effectivement, tout ça a été cassé. Et donc, dans ses solutions, lui, il ne veut pas qu'on oppose le travail et le capital. Le travail serait le perdant de cette opposition. Mais il rappelle qu'il y a le travail, il y a le consommateur, il y a le rentier, il y a le retraité. Et donc, il veut repenser à un pacte social, à un contrat social qui irait peut-être un peu plus regarder la manière dont la rente de l'héritier et les retraités sont considérés aujourd'hui. Et c'est très didactique, c'est très très simple. Alors il y a quelques solutions que je ne partage pas sur le fait qu'à un moment ou à un autre, on pourra avoir le travail de ses rêves. Voilà, bon. Mais c'est pas très long, c'est très bien écrit et je le recommande à tout le monde pour un peu mieux comprendre ce sujet.
Il y a une quinzaine de jours, Antoine Fouché, effectivement, bouquin très didactique. Merci beaucoup à tous les quatre venus, Nathalie Janson, à très vite, Jackie Isabello, Guillaume Clossa, Limon Gnoc, et donc cet ouvrage, on le rappelle, L'Europe ennemie de la République, il y a un point d'interrogation. Donc, PUF aux éditions Presse Universitaire de France. Merci Lim, merci bonne Guillaume, maison. Merci Jackie, merci Nathalie.
Merci.
À très vite, 19h56, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Avant Tekkenko à 20h, Stéphane Séjourné. Donc, qui sera le candidat de Paris pour occuper un poste de commissaire européen dans la future équipe d'Ursula von der Leyen? C'est l'Elysée qui a donné son nom quelques heures après l'annonce par Thierry Breton de son retrait. Thierry Breton qui a donc annoncé ce matin, un peu après 8h, qu'il ne serait pas de cette commission. Il accuse clairement Ursula von der Leyen d'avoir demandé à Paris de désigner un autre candidat. Et puis un mot de cette manifestation monstre aujourd'hui à Bruxelles. Plusieurs milliers de salariés de l'industrie automobile réunis à l'appel des salariés de l'usine Audi de Bruxelles, qui est menacée de fermeture, appel pour manifester, pour protéger les emplois industriels à l'heure où des menaces planent sur de plus en plus de sites en Europe. 19h57 à suivre, la météo, Tekkenko avec François Sorel bien sûr. Et nous on se retrouve demain à 18h en direct pour de nouvelles aventures. Très très bonne soirée à toutes et à tous, à demain.
Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.